Mesdames, Mesdames, Messieurs, il y a deux jours, c'était vendredi dernier, Yves Michaud et moi-même procédions à l'ouverture des deuxièmes entretiens du jeu de paume. Et vous le savez, les deux premières journées se sont déroulées, tout simplement pour être cohérent par rapport à la dénomination de ces journées de colloques, de rencontres, de réflexions, se sont déroulées dans la salle du jeu de paume, la salle où a eu lieu le 20 juin 1789 le fameux serment du jeu de paume. Simplement, je voulais aujourd'hui vous souhaiter la bienvenue dans la salle de l'Opéra Royal du château de Versailles. Vous le savez, c'est la dernière grande réalisation architecturale de l'Ancien Régime, puisque cette salle a été construite à la fin du règne de Louis XV, à l'occasion du mariage du dauphin Louis, qui allait devenir Louis XVI, et de Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche, donc de deux des protagonistes les plus en vue des épisodes révolutionnaires qui se sont déroulés par la suite. Alors ce théâtre, mais je ne vais pas vous faire une conférence sur l'Opéra Royal, est un chef-d'œuvre. C'est en très très grande partie un décor, ce qui explique d'ailleurs la qualité de son acoustique, parce qu'en effet, ce théâtre construit très rapidement a été construit en bois. Le marbre, c'est du faux marbre. Les colonnes ne sont pas en pierre, mais sont en bois doré, etc. Donc il s'agissait tout simplement de mobiliser la prouesse des architectes, des artisans, des décorateurs, des peintres, des doreurs, pour réaliser très très rapidement le décor d'un événement royal de la première importance. Alors néanmoins, je tiens simplement à vous rappeler que ce lieu appartient également à l'histoire de la République, puisque, vous le savez, après la Commune de Paris, les deux assemblées, le Sénat, et enfin l'Assemblée d'ailleurs à ce moment-là, se sont retirées à Versailles, et que c'est ici même, dans cette salle qui avait été transformée en salle de délibération de l'Assemblée nationale, qu'a été votée en 1875, l'amendement Vallon, qui, en quelque sorte, installe définitivement la forme républicaine du régime politique de notre pays. Alors, il va de soi que la transformation de cet opéra royal en salle des séances d'une assemblée l'avait très profondément bouleversé. Il faudra attendre le XXe siècle pour que plusieurs campagnes de restauration successives lui rendent son apparence du XVIIIe siècle. Pour en revenir aux entretiens du jeu de paume, je dois vous dire que je suis vraiment très très heureux de la façon dont les deux premières journées se sont déroulées. Elles ont été intenses, elles ont donné lieu à la présentation de points de vue extrêmement pertinents et parfois extrêmement militants. Je pense à l'intervention très très remarquée du procureur général Nadal sur la question de la séparation des pouvoirs. Les deux premières journées ont permis de faire très très largement un premier tour de la question, de poser la question notamment de savoir de quel pouvoir il s'agissait, s'il s'agissait uniquement de façon classique du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, ou si ce concept de séparation devait également concerner d'autres formes de pouvoir, le pouvoir économique, le pouvoir intellectuel, le pouvoir des médias également, et je crois que c'est ce sujet-là qui sera très très largement débattu ce matin. Les questions qui se sont posées ont également très souvent remis en cause la pertinence d'ailleurs de ce concept de séparation comme modèle de l'organisation démocratique d'un pays. On s'est demandé d'ailleurs si cette séparation avait vraiment existé sous une forme complète quelque part, et je crois que la réponse qui a été donnée par les différents intervenants est bien que de séparation absolue, abrupte, il n'en a jamais existé et qu'elle serait d'ailleurs tout simplement impraticable parce qu'elle condamnerait l'État qui l'aurait adopté à une forme d'incapacité, à une forme de stérilité de son action. Ce que j'attends également pour ma part comme auditeur, puisque dans un instant, mesdames, messieurs, je vais vous rejoindre dans notre salle, c'est également de savoir finalement à quoi tout cela peut servir et vers quel type de réforme de l'ordre constitutionnel il faudrait, notamment dans notre pays, puisque c'est de notre pays qu'il s'agit, tendre pour améliorer de façon générale le fonctionnement des pouvoirs publics. En tout cas, je tiens à remercier naturellement tous les participants à ces entretiens du jeu de paume, et plus particulièrement ceux qui m'entourent sur cette table ce matin. Remercier une nouvelle fois le professeur Yves Michaud, directeur de l'Université de tous les savoirs. Je me souviens, Yves, que c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'en 2000, alors que j'étais président de la célébration le président de la mission pour la célébration de l'an 2000, nous étions engagés dans ce projet de proposer à nos concitoyens, pendant toute l'année 2000, tous les jours, des conférences sur des sujets d'intérêt scientifique ou politique ou artistique ou culturel. Je me souviens encore que le matin du 1er janvier de l'an 2000, nous demandions si finalement nos concitoyens répondraient à cette invitation et lui marqueraient de l'intérêt. Je sais également à quel point nous avons été, dès le premier soir, dès la soirée du 1er janvier 2000, impressionnés par l'enthousiasme des auditeurs de la première conférence qui avait été donnée, je crois m'en souvenir, par le professeur Jacob. J'admire beaucoup la pertinence, la justesse avec laquelle tu n'as cessé tout au long de l'an 2000 d'organiser le programme de ces conférences, et à quel point également tu as marqué de l'ardeur dans l'ambition d'assurer de la pérennité à cette initiative culturelle. L'Université de tous les savoirs a désormais 11 ans, ce qui n'est pas pour un projet culturel une mince affaire, et je suis très heureux que nous ayons pu d'ailleurs renouer notre collaboration en installant l'Université de tous les savoirs ici au château de Versailles pour ses entretiens annuels du jeu de paume. Je forme naturellement beaucoup de vœux pour la pérennité de notre initiative ici au château de Versailles. J'espère qu'un jour nous pourrons compter les troisièmes entretiens, les quatrièmes, les cinquièmes, les dixièmes, les vingtièmes. Peut-être un jour, peut-être que nous ne serons plus là pour les organiser, peut-être que le sort nous aura envoyé vers d'autres horizons, ou peut-être vers un horizon, hélas, irrévocable, mais ça continuera, parce que l'intelligence a vocation à ne jamais capituler, à toujours s'exercer, et à toujours savoir se poser des questions, et donc se remettre en doute. Alors également, cette belle pérennité a un témoin, elle a un accompagnateur, c'est Nicolas Vial, grand dessinateur que vous connaissez, dont vous voyez très très souvent les contributions dans diverses publications, notamment dans Le Monde. Nicolas Vial a été notre compagnon de l'Université de tous les savoirs dès le premier jour, dès le début de l'an 2000, et ce compagnonnage dure toujours, ce qui fait que ce matin, une nouvelle fois, Nicolas Vial, qui nous a déjà dit bonjour, comme vous le voyez, Nicolas Vial commentera en quelque sorte, avec sa parole à lui, c'est-à-dire avec le dessin, commentera les propos qui s'échangeront autour de cette table. Voilà, je tenais, mesdames, messieurs, à vous remercier également, parce que des entretiens, des colloques, des séminaires, des conférences qui n'auraient pas d'oreilles pour les entendre, qui n'auraient pas de regard pour les observer, qui n'auraient pas d'intelligence pour les scruter, seraient totalement vains. Donc c'est vous qui êtes la raison d'être de ces entretiens. Je vous en remercie.
Bonjour, j'en profite aussi pour saluer, puisque nous ne l'avons pas fait les autres jours, ceux qui nous suivent en direct sur Internet, parce que, figurez-vous, mesdames et messieurs, que vous êtes qu'une partie du public de ces rencontres et qu'il y a un très fort suivi par des gens qui n'ont pas le même courage que vous de venir de Paris à Versailles ou même de Versailles à Versailles. Donc, je salue ceux qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent en ce moment sur Internet. Alors, je ne vais pas présenter beaucoup plus longuement le débat qui va suivre ou les échanges qui vont suivre, parce que c'est pas un débat forcément, c'est plutôt des échanges. Le titre en est quand même assez clair, les noces de la politique et de la communication. Comme vous vous en êtes rendu compte pendant ces deux jours et deux jours et demi, chaque fois nous avons examiné la question de la séparation du pouvoir à la fois du point de vue théorique et puis en même temps du point de vue de la réalité des séparations ou des convergences ou même éventuellement des conflits et des contradictions qui peuvent se produire. Dès le premier soir, nous avons eu un débat assez animé avec Monsieur Sellière, les Pinson-Charlot et Yann Algan sur les oligarchies financières. Hier, nous avons eu le débat avec Martin Hirsch, Philippe Houillon, Catherine Labrusse et Mustapha Mekki sur les conflits d'intérêts. Et bien ce matin, nous en venons à, aux relations de la politique et de la communication. Je n'en dis pas plus. Nous allons procéder de la manière suivante. Je vais d'abord demander à des gens de médias, proprement dit, à Olivier Mazerolle et Sophie Coignard, de donner leur point de vue sur la question qui est proposée. Ensuite, Nadine Toussaint-Desmoulins et Éric Fotorino nous parleront du même problème, mais plutôt, je dirais, du point de vue des relations financières qui sont derrière le fonctionnement de la communication et les relations à l'économie et aux politiques. Et puis, Cynthia Fleury, qui est à mes côtés, qui est philosophe, elle, donnera le point de vue plus général du philosophe. Alors, je présente brièvement le premier intervenant, Olivier Mazerolle. Il est journaliste sur la chaîne d'information BFM TV. Nous le connaissons tous pour l'avoir entendu sur les différents canaux de communication. Il était chroniqueur judiciaire sur Europe 1. Il a été ensuite à RMC. En 1980, il est rentré à RTL, où il a très longtemps présenté aussi le grand jury RTL Le Monde LCI de 1993 à 2001. Il a travaillé à la direction de l'information de France 2, etc. Donc, en fait, il a parcouru, je dirais, tout l'éventail des médias, et je lui donne la parole pour la première approche.
Merci. Je n'ai pas trop l'habitude d'ouvrir le bal, mais enfin, je vais essayer de le faire à peu près convenablement. Juste une remarque au départ concernant la place des médias et leur relation avec plus particulièrement le monde politique. Je dirais que les médias ne font, à mon sens, qu'occuper une place qui est abandonnée par le monde politique. Ce ne sont pas les médias qui gèrent volontairement le rythme de la vie politique, mais tout simplement parce que les politiques sont comme les mouches attirées par la lumière, attirées par les médias, et ont décidé de délivrer leur message sur les médias plutôt que dans les lieux où habituellement ils devaient débattre, comme par exemple à l'Assemblée nationale. Vous n'avez plus aujourd'hui d'homme politique qui fait une annonce à l'Assemblée nationale. Il va systématiquement à la télévision ou donner une interview dans un journal. Est-ce que le journal ou est-ce que la télévision doivent renoncer à faire cette interview au prétexte que l'homme politique, évidemment, s'il vient pour donner cette interview, estime que ça peut lui être profitable et par conséquent, il a effectivement quelque chose à dire, un message à délivrer. Moi, je ne crois pas pour autant qu'il faille imaginer qu'il existe à ce moment-là une connivence. Bien entendu, si les médias invitent un politique à venir s'exprimer, c'est parce qu'ils pensent que cela va amener davantage de lecteurs, va donner ou d'auditeurs ou de téléspectateurs, que cela va donner une importance plus grande à ce média, que c'est dans ce média que se fait d'une certaine façon le débat politique. Pour autant, ça ne signifie pas que l'interview soit complaisante. Et d'ailleurs, une interview complaisante est en général extrêmement négative pour celui qui la donne, parce que, sauf à supposer que les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs sont totalement ignares, ils s'aperçoivent très vite qu'en réalité, les questions attendues n'ont pas été posées. Alors ensuite, je voudrais juste évoquer deux questions qui sont dans l'actualité ambiante, qui sont à la marge du thème développé ce matin, mais qui concernent l'actualité autour de Dominique Strauss-Kahn. D'abord, il y a eu une polémique sur la façon dont l'affaire a été traitée, notamment à la télévision et notamment sur les chaînes Tout Info, puisque ce sont elles qui ont reçu en direct les images, ou en tout cas les premières images de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. On a dit, mais il a été traité de façon extrêmement indulgente, alors que la malheureuse victime, elle, sa parole a plutôt été mise en doute. C'est vrai de certains politiques, et c'est vrai que d'une façon générale, les commentaires autour de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn étaient plutôt gênés, en tout cas prenaient en compte davantage peut-être que pour d'autres la présomption d'innocence. Alors il est exact que les journalistes, quels qu'ils soient, et quel que soit le secteur dans lequel ils opèrent, sont toujours, parce qu'on est aussi des êtres humains comme les autres, plus gênés d'avoir à traiter d'une situation embêtante vécue par quelqu'un qu'ils connaissent bien, plutôt que lorsqu'ils ont à traiter d'une situation vécue par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est, je pense, un réflexe assez normal et plutôt encourageant, parce que sinon, nous ne serions que dans une société purement mécanique, robotisée, et il serait tout à fait anormal que toutes les conversations, toutes les relations professionnelles, je ne parle pas de relations amicales ici, mais simplement professionnelles, s'évanouissent comme ça d'un coup d'un seul, et la politique n'est pas le seul secteur concerné, on pourrait dire la même chose du sport, et finalement, on pourrait dire la même chose d'à peu près tous les secteurs, parce que même dans le domaine des faits divers, lorsqu'un journaliste doit traiter d'une malversation commise par un policier qu'il connaît, il se trouve également dans une situation extrêmement compliquée. Dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, je dirais quand même que le rapport de force est immédiatement amputé par le fait que les journalistes politiques ne sont pas les seuls à traiter de son cas. Par conséquent, il y a des tas de journalistes dans chaque rédaction qui sont amenés à traiter de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, qui ne connaissent absolument pas et qui se contrefichent de ce qu'il est, de ce qu'il a pu représenter, et qui traitent ça à leur façon. Donc déjà, il y a ce rééquilibrage qui s'opère automatiquement au sein des rédactions. Et puis, finalement, je dirais que Dominique Strauss-Kahn a peut-être été traité tout simplement comme devrait l'être toute personne qui est mise en examen ou inculpée, peu importe le terme, c'est-à-dire en respectant peut-être un peu plus qu'on ne le fait habituellement la présomption d'innocence. Et je me souviens que dans un débat à la télévision, Robert Badinter a suscité une relative indignation en disant « mais il ne faut pas parler de victime, il faut parler de plaignante », mais il a strictement raison. Ça ne veut pas dire que cette personne n'ait pas subi quelque chose. Il est même possible, même vraisemblable, qu'elle ait subi quelque chose, et il sera toujours temps de le dire lorsque la preuve aura été apportée. Mais, dans l'immédiat, il y a la présomption d'innocence d'un côté et la plaignante de l'autre qui s'exprime. Ensuite, il y a eu les déclarations de Luc Ferry. Alors, je ne veux pas ici parler de Luc Ferry, c'est pas ça qui est important. C'est, dans le fond, il a mis le doigt sur quelque chose qui est réel, ce sont les non-dits, ou ce qui pourrait être des non-dits dans la presse concernant effectivement des personnes que les journalistes connaissent, sur lesquelles ils auraient des informations qu'ils ne donnent pas. Parce que, compte tenu des relations qu'ils entretiennent, ils n'ont pas envie de donner ces informations. En fait, Luc Ferry, il a parlé de quelque chose à quoi nous sommes confrontés, c'est vrai, en permanence, ce sont les rumeurs. Alors, Dominique Strauss-Kahn, bon, ce ne sont pas seulement des rumeurs, c'est vrai qu'il a la réputation affirmée d'être un dragueur très actif. Bon, en même temps, voilà, est-ce que c'est un délit ? Je connais des consoeurs, je sais que je vais dire quelque chose qui n'est pas à la mode en ce moment, mais enfin, je connais des consoeurs qui sont, disons, expérimentés et qui connaissent ce milieu-là depuis des années et qui m'ont dit, mais enfin, toutes les femmes journalistes ont fait l'objet de dragues, parfois même insistantes, de la part d'hommes politiques. Ben, c'est comme ça, mais nous savons très bien comment réagir. Ou bien on a envie, ou bien on n'a pas envie. Et si on n'a pas envie, on sait très bien ce qu'il convient de faire. Et ça n'ampute pas et ça n'oblitère pas du tout les relations que nous aurons ultérieurement avec eux pour obtenir telle ou telle information. Bon, à partir du moment où des rumeurs nous parviennent, ce sont des rumeurs propagées, parfois on ne sait pas par qui. Ça vient par le bouche à oreille, c'est propagé par les dîners en ville. Alors faut-il à chaque fois vérifier ces rumeurs ? Moi je reconnais sincèrement que lorsque des rumeurs concernant un politique, des rumeurs gênantes, hein, quand il s'agit non plus simplement d'un travers, mais quand il s'agit carrément de délits, en l'occurrence Luc Ferry mettait le point sur des délits, je reconnais sincèrement que je suis embêté. Non pas que je ne veuille pas savoir, mais je reçois tellement de rumeurs qui me viennent aux oreilles. À l'heure actuelle, il y en a qui courent sur des futurs candidats à l'élection présidentielle, qu'on se dit, mais est-ce qu'il faut se donner la peine de vérifier tout cela ? Est-ce que véritablement c'est important ? Et je dois dire que ça, c'est sans doute aussi mon âge qui fait ça, puisque je dois être à peu près, je ne sais pas si Yves Michaud me bat, mais enfin, en tout cas, je suis pas loin d'être le doyen des personnes qui sont assises à cette table. Je n'accepte plus d'être obligé journalistiquement de m'occuper constamment de ces questions-là, à partir, encore une fois, bien souvent de rumeurs qui ne sont pas fondées, alors que j'ai envie de parler véritablement des débats politiques. Comme en plus je ne crois pas à la société parfaite, à la société idéale, j'accorde peut-être pas suffisamment d'importance à ces questions-là. Mais spontanément, j'éprouve un réflexe de répulsion, non pas parce qu'il s'agit de politique, mais parce qu'il s'agit de personnes humaines, et que, tout simplement, je n'ai pas envie de passer mon temps à fouiller dans les poubelles pour savoir si un tel ou une telle est aussi bien qu'on le prétend, mérite véritablement le poste qu'il occupe. Je me dis que même humainement, je ne sais pas pourquoi j'irais, moi, donner des leçons à d'autres sur leur comportement. Alors, s'il s'agit de délits, effectivement, les rédactions, et j'ai dirigé deux rédactions dans ma vie, RTL et France 2, je n'ai jamais empêché un confrère qui avait ce qu'il croyait être des informations sur un politique ou sur quelqu'un de connu, de mener ces investigations. Il faut mener des investigations, c'est vrai. Il faut laisser la porte ouverte à cela. Personnellement, je n'ai pas le goût de le faire, donc c'est vrai que je ne me rue pas dans cette activité-là. Mais il y a toujours dans les rédactions des confrères, car ces rumeurs, elles viennent aux oreilles de tout le monde. Il y a toujours des confrères qui mènent des enquêtes. Et d'ailleurs, dans un cas précis, l'Express, sur une des rumeurs qui, semble-t-il, était évoquée par Luc Ferry, encore qu'on ne sache pas très bien de qui il s'agissait, l'Express a fait, en son temps, sur cette rumeur, a mené une enquête précise, et les journalistes de l'Express sont arrivés à la conclusion que cette rumeur ne tenait pas. Alors faut-il, comme ça, immédiatement, jeter en pâture des noms ? Dire « Ah, mais vous saviez qu'un tel ou un tel pouvait être l'objet de rumeurs. » Par exemple, aujourd'hui, vous entendez dire sur quelqu'un qui va être candidat à l'élection présidentielle « Attention, alcoolisme. Faut-il donner cette rumeur en citant un nom, en pâture ?» Non. Voilà. parce que rien ne vient corroborer cela. Alors, évidemment, dans une rédaction, on vous dit, comment tu n'es pas au courant? Et vous passez pour un imbécile, parce que vous êtes celui qui dit, ben non, je suis pas au courant, ou alors ça ne m'intéresse pas. Mais ce réflexe, en tout cas, personnellement, je l'ai peut-être trop, parce que c'est vrai que je reconnais bien volontiers que c'est une attitude qui peut empêcher que des affaires réelles sortent. Mais cette attitude, je l'ai, parce que je ne supporte pas d'entendre en permanence celui ou celle qui est mon alter ego être mis en cause de façon dégueulasse. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long.
Sophie Coignard, c'est à vous.
Alors non, je ne vous ai pas présenté, excusez-moi.
Vous n'avez pas besoin, mais vous êtes grand reporter au Point depuis 1987, diplômé de l'ESSEC, et je donne juste une indication des publications, au cas où vous ne les connaîtriez pas. La Nomenclatura française de 1986, La République bananière 1989, Le Nouveau Dictionnaire des Girouettes 1993, L'Omerta française 1999, plusieurs rapports Omerta, Un État dans l'État, Le Pacte immoral, Comment les élites sacrifient nos enfants, Albin Michel 2011. Voilà, donc ça vous donne une petite idée, et ensuite je la laisse s'exprimer.
Merci beaucoup. Alors, je vais essayer rapidement quand même de rebondir. Je ne sais pas si la règle du jeu, c'est de rebondir sur l'interlocuteur précédent. Je vais quand même dire deux ou trois choses à propos de ce que vient de dire Olivier Mazerolle. Moi, je pense que... Enfin, j'ai relevé dans ce qu'il disait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ce qui est bien dans le cadre d'un débat et d'un échange. La première chose, c'est que effectivement, j'avais envie de lui dire, bah, face à la rumeur, effectivement, il y a l'enquête. L'enquête, c'est pas un truc totalement étranger à la profession de journaliste. Je considère même, à titre personnel, que si on fait pas d'enquête, c'est un petit peu compliqué d'exercer la profession de journaliste. Donc, effectivement, est-ce qu'il faut enquêter sur toutes les rumeurs, non. Est-ce qu'il faut se l'interdire en disant « Pouah, c'est pas bien ?» Je pense que c'est une attitude qui n'est pas possible et qui n'est pas positive en termes de journalisme. Pourquoi ? Eh bien, parce que je me souviens, quand j'ai commencé à exercer ce métier, c'était à la fin des années 80, à l'époque, dans les services politiques, les journalistes qui voulaient enquêter, par exemple, sur des choses comme l'argent des politiques ou le financement des campagnes, qu'on peut estimer être des thèmes d'enquête légitimes et pas tout à fait dégoûtants, on les regardait, j'ai des exemples précis concernant plusieurs rédactions, leurs confrères les regardaient d'un air de dire « Oh, quel mal élevé, mais c'est vraiment épouvantable, on devrait plutôt s'intéresser au débat d'idées ». Alors, cette manière de considérer qu'il y aurait un journalisme propre et un journalisme sale, un journaliste noble et un journalisme d'exécution, me semble impossible à soutenir. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense qu'il y a une vraie continuité. Je pense qu'il est impossible de parler uniquement du débat d'idées dans un monde parfaitement éthéré, dans l'univers des bisounours, en faisant comme si le réel n'existait pas. Car évidemment, on a vu ce qui s'est passé à la fin des années 80, au début des années 90. Il y a eu une sorte de télescopage terrible avec le réel. Le réel, c'était effectivement un certain nombre d'affaires, vous vous en souvenez tous, qui sont entrées comme par réfraction dans un univers qui n'était absolument ni chroniqué ni enquêté. Alors, j'ai réfléchi à cette intervention que nous devions faire ce matin dans ce magnifique lieu, je me suis dit finalement, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt pour un journaliste ? Un conflit d'intérêt pour un journaliste, on voit assez bien ce que c'est la même chose qu'un conflit d'intérêt pour qui que ce soit d'autre, c'est de voir sa pratique entachée par des liens qui seraient des liens qui, influenceraient sa manière de rapporter l'actualité d'exercer son métier. Donc effectivement, il y a là un thème sur lequel je vais aller assez vite, parce que si je ne me contrains pas, je serai capable de vous en parler pendant 2 ou 3 heures. C'est un des thèmes sur lesquels je travaille depuis longtemps, et pas seulement pour les journalistes, mais j'ai toujours considéré que c'était intéressant de regarder les conflits d'intérêts aussi dans la profession qu'on exerce. Ça permet d'avoir une sorte d'autocritique qui peut éventuellement être féconde. Et donc effectivement, des conflits d'intérêts, un journaliste, j'allais dire, est forcément en conflit d'intérêts. Parce que, et là je suis assez en phase avec ce que disait Olivier Mazerolles, parce qu'un journaliste doit aller au contact. Et un journaliste qui ne voit personne, qui ne sort pas de sa rédaction, effectivement il va rester absolument impartial, mais en même temps il n'aura pas d'informations, il n'aura pas de ressenti, il n'aura finalement pas grand chose à raconter à ses lecteurs, à ses auditeurs ou à ses téléspectateurs. Donc un journaliste doit aller au contact. À partir du moment où il va au contact, j'allais presque dire, il se retrouve par nature en conflit d'intérêts, parce qu'effectivement il entretient des relations plus ou moins proches avec ses interlocuteurs. Alors c'est là où évidemment ça se corse un petit peu. Quand je me suis posé la question, je me suis dit, alors de quelle nature peuvent être ces conflits d'intérêts? Alors effectivement, les plus évidents, c'est les conflits d'intérêts financiers, c'est-à-dire en gros le journaliste qui, selon toutes les chroniques de la 3e et de la 4e République, qui allait toucher une petite enveloppe Kraft avec des billets au comité des forges, par exemple, pour reprendre une imagerie un peu ancienne. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les ménages, et on connaît bien ça, c'est-à-dire en gros arrondir ses fins de mois en faisant des prestations pour des gens qui sont par ailleurs vos interlocuteurs et dont vous avez à parler dans le média qui est le vôtre, ce qui pose un vrai problème pour le coup cru de conflit d'intérêts. Et puis effectivement, on peut décliner ça, il y a aussi le conflit d'intérêts idéologique, c'est-à-dire effectivement, on est tous en conflit d'intérêts parce qu'on a tous nos opinions propres. Donc la question après est aussi une question de degré. Autrement dit, il y a des manières de se trouver plus ou moins en conflit d'intérêts. C'est tout l'intérêt, me semble-t-il, quand même, de s'intéresser à ce que j'ai appelé, notamment dans le Merta française, le phénomène de connivence, qui est un phénomène relativement français, il faut bien l'avouer, et éventuellement, pour ce qui me concerne, le regretter. Je pourrais continuer pour prendre un univers sur lequel j'ai enquêté et j'enquête régulièrement pour le point. C'est poser le problème, par exemple, des journalistes qui ont une appartenance cachée. Les journalistes, membres de la franc-maçonnerie, par exemple. J'en connais, dont les contacts sont facilités, notamment dans les milieux de la police, par cette appartenance. Est-ce que cette appartenance se pose problème? Je pense qu'elle ne poserait aucun problème si elle n'était pas jalousement cachée. Donc, effectivement, il y a des journalistes pour qui c'est pas un problème, enfin voilà, et d'autres qui le cachent. Je pense que dans un cas, on a absolument aucune espèce de commentaire à faire. Dans l'autre, on peut de temps en temps se poser des questions. Et j'ai notamment dans un hebdomadaire concurrent du mien, c'est-à-dire à l'Express, il y a eu une histoire un peu compliquée liée effectivement à un journaliste qui appartenait à la franc-maçonnerie. Et puis je me suis dit, mais finalement, les noces de la politique et de la communication, cessons d'être narcissiques 2 minutes, ça concerne aussi quelque chose qui est moins directement lié à notre profession de journaliste, c'est l'intrusion incroyable de la communication dans l'univers politique depuis, alors je crois qu'Olivier Mazerolles serait plus qualifié que moi pour parler de ça, mais j'allais dire depuis peut-être vraisemblablement Giscard. Giscard avait un conseiller qui à l'époque ne s'appelait pas d'ailleurs un conseiller en communication, le mot n'existait même pas, mais qui était chargé des sondages et de l'opinion publique, qui s'appelait Bernard Rideau, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, et qui était le premier à faire beaucoup de sondages, d'études de l'opinion publique. On a vu que d'ailleurs ça n'était pas forcément la panacée, l'histoire, le résultat de l'élection de 80 l'a démontré. Et puis après il y a une espèce d'accélération, je les souviens par exemple que quand il quitte le cabinet de Pierre Mauroy, quand Pierre Mauroy quitte l'hôtel Matignon, Thierry Pfister, qui était donc son conseiller, écrit un livre qui s'appelle « La vie quotidienne à Matignon », qui était un livre formidable, qui m'avait ébloui d'intelligence et de précision sur la pratique du politique au quotidien. Et dans ce livre, Thierry Pfister a un chapitre très militant, surtout dans son titre, qui s'appelle « Gouverner, c'est communiquer ». Évidemment, c'était une pique contre les successeurs de Mauroy, c'est-à-dire Laurent Fabius, qui faisait ses causeries télévisées, qui avait quand même une espèce de tropisme pour la communication. Et effectivement, Thierry Pfister expliquait que c'est en prenant des décisions, en gouvernant, que l'on communique, autrement dit, que l'on doit être jugé sur ses actes et pas sur son apparence. Ensuite, on a eu celui que François Bazin, mon confrère du Nouvel Observateur, appelait le sorcier de l'Élysée, Jacques Pilan, auprès de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac. Et moi, je suis sidérée aujourd'hui par le fait que, en gros, les conseillers en communication qui fleurissent font du démarchage auprès de tous les ministres qui passent ou qui durent, en leur promettant monts et merveilles. Quelques-uns d'entre eux m'ont raconté des histoires qui sont assez amusantes, c'est-à-dire qu'en gros, un ministre assez modeste voit arriver un conseiller en communication qui a déjà un petit peu travaillé, notamment dans le domaine des entreprises, qui a un ou deux clients déjà au gouvernement, et qui, en gros, lui explique qu'avec lui, il va pouvoir accéder à Matignon. Alors, ce qui m'a le plus stupéfié, c'est que quelques-uns... écoute sérieusement ce genre de propos, et on en est donc au stade du démarchage. À mon avis, ça c'est assez nouveau, ça date d'il y a quelques années. Ces conseillers en communication ont pris quand même beaucoup de poids auprès des politiques, un poids beaucoup plus important qu'hier, et je pense que ça doit beaucoup interpeller évidemment les décideurs politiques sur leur manière de concevoir l'exercice de leurs fonctions électives. Et en effet, je trouve que l'accusation des médias sur les petites phrases est une accusation qui est surtout opposable aux politiques et à leurs chers conseillers. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'aussi, il faut que les journalistes s'interrogent sur cette nouvelle donne. Parce qu'évidemment, ça n'est pas neutre non plus dans l'exercice de notre métier. Et je crois qu'il y a un terme qui me sort vraiment par les yeux aujourd'hui et qu'on retrouve absolument partout, qui est l'expression d'éléments de langage. On a l'impression qu'on va assister à une sorte de robotisation des élus, des ministres, des membres de l'exécutif qui ne vont plus parler que par petites saccades de mots qui sont considérés comme acceptables, soft, etc. J'espère qu'il y aura de ce point de vue un retour de balancier, et je pense que les médias ont un rôle à jouer pour que ça se produise. Je vous remercie.
Non, nous poursuivons donc le tour d'horizon. Cette fois-ci, nous quittons directement l'expérience du journaliste et l'expérience de la communication. Et je vais demander à Nadine Toussaint-Desmoulins de nous parler justement de l'économie des médias, parce que là aussi, bien évidemment, il y a des participations, des prises de participation, des réseaux, des appartenances. Alors, Nadine Toussaint-Desmoulins est professeure émérite de sciences de l'information et de la communication. Elle a été directrice de l'Institut français de presse. Elle est docteure en sciences économiques. Elle est spécialiste de l'économie des médias. Elle a publié notamment le Que sais-je, l'économie des médias, avec beaucoup d'éditions successives. Tout son travail est sur l'évolution des systèmes des médias et le rapport avec l'économie. Donc je lui passe la parole pour un changement de perspective, un changement de focal en quelque sorte.
Oui, je vous remercie. Donc je ne suis ni politologue, ni sociologue, ni philosophe, ni bien évidemment journaliste. Simplement, j'étudie depuis de nombreuses années le fonctionnement économique des médias. Et effectivement, dans la mesure où on s'interroge sur, je parlerai plutôt des médias que de la communication, parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, la communication englobe des relations publiques, des gens qui s'intéressent à formater plus ou moins le discours. Les journalistes sont censés être plus objectifs. Alors donc, les études que nous menons à l'Institut français de presse, visent à comprendre les relations qui se nouent entre les médias et le pouvoir politique d'une part et le pouvoir économique d'autre part, les deux étant d'ailleurs liés, parce que lorsque l'on parle de pouvoir politique, ça peut être aussi bien le rôle de l'État que le rôle des instances intermédiaires, que sont par exemple les députés, l'État j'entends c'est plutôt le président, le gouvernement, ensuite il y a les députés et puis il y a également les instances locales qui peuvent intervenir sur le fonctionnement des médias. Donc il y a déjà une action économique du pouvoir public par le fait que les pouvoirs publics sont à l'origine souvent de l'ensemble du fonctionnement des médias en autorisant par exemple l'entrée de certains médias, puisqu'on oublie, mais il y a quelques années, jusqu'à 1981, les pouvoirs publics étaient les actionnaires monopoleurs de la radio-télévision française. Il y avait certes deux radios importantes comme Europe 1 et RTL qui n'étaient pas proprement parlées françaises, mais on avait donc déjà les pouvoirs publics en tant que monopoleurs sur l'audiovisuel, ce qui bien évidemment a changé. La puissance publique intervient aussi en amont du fonctionnement des médias, en encadrant en quelque sorte ce fonctionnement économique, par exemple en autorisant ou en n'autorisant pas la publicité dans les médias. Ce qui va évidemment être important, ou en régulant le temps que ces interventions publicitaires peuvent occuper, des minutes, les secteurs qui ont droit, qui n'ont pas droit. Donc il y a un encadrement très fort sur cette présence de contenu qui n'est pas le contenu des journalistes, mais qui est le contenu de la publicité. Les pouvoirs publics interviennent aussi dans de multiples décisions qui conditionnent l'économie des médias, par exemple la fixation de la redevance, qui est le moyen que l'on a de faire en sorte que le public participe financièrement à cet audiovisuel public, en finançant un certain nombre de fonds de soutien, en aidant les médias, j'y reviendrai peut-être à la fin. Donc la puissance publique est très importante dans l'encadrement, la régulation des médias. Et la puissance publique est également responsable en quelque sorte de la structure du marché, puisqu'il y a là encore une régulation sur la concentration. On l'oublie peut-être, mais il y a une loi importante qui vise à limiter, avec plus ou moins de réussite, il faut bien le dire, la concentration des médias en limitant la possession des actions de l'audiovisuel, de le marché de la presse. Donc il y a tout un cadre qui déjà fait que la puissance publique intervient sur les médias, pas vraiment sur le contenu au sens propre des journalistes. Je ne parle pas de la censure et des textes, ça c'est pas mon rayon, si je puis dire, mais je parle de l'organisation économique des médias. Ensuite, à côté de ce pouvoir, on va dire, politique de la puissance publique, il y a évidemment l'intervention du pouvoir économique, qui, lui, est très fort dans les médias, puisque finalement, les médias, et ça, je sais que les journalistes n'aiment pas trop l'entendre, les médias sont le produit, déjà le mot produit ne leur plaît pas toujours, sont le produit d'entreprises. Et ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont des objectifs qui sont, sinon de faire du profit, mais les entreprises privées en général préfèrent faire du profit plutôt que du déficit, au moins d'être à l'équilibre. Donc les entreprises ont une sorte d'obligation de réussite, et les actionnaires de ces entreprises vont intervenir sur le fonctionnement. Les actionnaires vont intervenir évidemment au niveau du capital initial en donnant l'argent pour que un média commence. Ils vont ensuite être sollicités pour donner de l'argent au fur et à mesure de la vie du média si le marché auquel le média s'adresse n'est pas suffisant. Donc, on va avoir la présence d'un certain nombre de capitalistes, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire des gens qui apportent des capitaux, et ces capitalistes vont être parfois des mécènes, c'est-à-dire des gens qui apportent de l'argent sans véritablement rechercher le profit, mais ils vont parfois être des capitalistes qui vont essayer du moins d'atteindre une certaine rentabilité. Et ça va être d'autant plus le cas quand ces capitalistes sont des institutions financières, sont des banques qui parfois prêtent de l'argent, transforment les prêts ensuite en prise de participation et cherchent ensuite à récupérer soit les prêts quand on est dans une optique de prêt avec des intérêts, soit à faire en sorte que leur actionnariat ne soit pas à fond perdu. Donc on va assister à une financiarisation importante des médias. Alors bien sûr, les actionnaires les plus connus sont souvent à la charnière de l'activité purement économique et de relations politiques. Si j'énumère, comme tout le monde le fait, les grands capitalistes des médias français, on va trouver Lagardère, on va trouver des gens comme Bolloré, on va trouver des gens comme Pinault, madame est dans un magazine qui est contrôlé par Pinault. Il y a également des actionnaires qui sont
qui est d'assaut, bien évidemment, pour le Figaro. Donc là, on a des personnes dont la relation politique est connue et dont, par ailleurs, certaines activités industrielles ne sont pas médiatiques. On a bien évidemment aussi le cas de Bouygues avec des activités de travaux publics. Donc ça, ce sont des phénomènes bien connus qui sont chaque fois ressentis pour dire il y a un lien entre la politique et les journaux parce que les propriétaires des journaux sont des industriels. Il faut d'ailleurs savoir que très souvent, ils ne sont que faiblement propriétaires. Arnaud Lagardère ne contrôle qu'à peine 7% du capital de son groupe. Ce sont des personnes qui sont des personnes phares, mais qui contrôlent peu. Jean-Marie Messier, dont on a beaucoup parlé, et ce ne veut pas du tout le défendre, n'était pas le propriétaire de Vivendi. Il en était l'homme phare, mais il n'en contrôlait, je crois, que 2 ou 3%. Donc, il ne faut pas confondre non plus le rôle de ces hommes phares et le rôle de leur conseil d'administration qui, eux, représentent les propriétaires. Et il faut aussi savoir que, très souvent, les propriétaires sont tout simplement des institutions financières et très souvent des institutions financières étrangères. Le capital de Lagardère Group est à plus de 50% étranger. Donc, on a une vision qui est souvent très floue de la réalité du capitalisme médiatique. Il faut savoir aussi que, à côté de ces interventions, il y a évidemment les gestionnaires qui sont introduits par les capitalistes. Et les gestionnaires, qui sont des salariés de l'entreprise, ont pour fonction, justement, de réaliser cette rentabilité qu'on souhaite à deux chiffres et qui, malheureusement, pour notamment la presse, est totalement illusoire. Il n'y a pratiquement plus aucun journal qui peut se prévaloir d'avoir des bénéfices de l'ordre, qui permettent d'avoir des bénéfices qui sont de l'ordre de 10% par an. Donc, ces gestionnaires introduisent ce qu'on appelle du cost control, contrôle les coûts, essaye de resserrer les boulons, de limiter les effectifs, de faire en sorte qu'il y ait par exemple des externalisations de production, de faire en sorte que l'on s'adresse à des entreprises extérieures, que l'on s'adresse à des journalistes qui sont des précaires, qui sont des pigistes, souvent à des stagiaires. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les entreprises de presse qui m'inondaient lorsque je dirigeais l'Institut de demande pour avoir des stagiaires gratuits. Donc les gestionnaires apporte en quelque sorte un harcèlement, je pense, de l'entreprise en général et des journalistes en particulier. Ils introduisent également une instabilité parce que, en démontrant que le journal marche ou ne marche pas, ils aboutissent à des changements de propriété rapides. Vous parliez tout à l'heure de l'Express. L'Express, en 10 ans, a changé, je crois, 7 fois de propriétaire. Il est passé de Servan Schreiber à la Générale Occidentale, et ensuite à Alcatel, puis à Havas, puis à Vivendi, puis à la Socpresse, c'est-à-dire Hersan, et puis maintenant à Roularta, qui est une entreprise belge. Donc vous voyez ce changement qui est le résultat de mouvements capitalistiques et qui affecte donc les médias. Alors d'autre part, les médias sont soumis tout simplement au pouvoir économique, non plus de ceux qui leur apportent le capital initial ou le capital de secours, on va dire, en recapitalisant les entreprises, mais ils sont soumis finalement à leur marché, parce que les entreprises fonctionnent sur un marché. Et les économistes aiment signaler souvent que c'est un double marché. Alors c'est le dada un petit peu des économistes que de dire que les médias ont la particularité, pour certains, pas pour tous, mais pour nombre d'entre eux, de se vendre sur le marché de leurs clients initiaux, que sont les gens qui payent pour les consommer. Alors c'était surtout le cas de la presse, qu'on achète. C'est aussi d'une certaine mesure le cas de la télévision, pour laquelle la redevance, c'est pas vraiment un achat, mais où il y a des abonnements. Donc Canal Plus a des abonnés, certaines chaînes de la TNT ont des abonnés. Donc il y a le marché des gens qui payent. Et si les gens ne sont pas contents du contenu, ben, ils n'achètent plus, ils ne payent plus. Et donc ça aussi, c'est un pouvoir qui est très important. Et puis il y a le pouvoir des annonceurs. Le pouvoir des annonceurs est parfois plus important ou parfois unique. Les médias gratuits sont entre les mains des annonceurs, qu'il s'agisse des annonceurs commerciaux ou qu'il s'agisse des annonceurs, des annonces classées, des petites annonces. Et les annonceurs ont bien évidemment la particularité logique dans leur système de s'intéresser non seulement aux gens qui achètent les médias, ce sont le lecteur, mais aussi à ceux qui lisent, regardent les médias, c'est-à-dire le lectorat, l'audience. Et donc, on sait, on a de très nombreuses preuves statistiques, si certains en doutaient, que soit ils recherchent les très vastes audiences, soit ils recherchent les audiences très qualifiées, et si, selon le type de produit qu'ils veulent valoriser, ils n'ont pas le public correspondant, ils ne vont pas faire de publicité. Et donc, en cessant leur publicité, ils entravent évidemment le fonctionnement économique des médias. Donc, il y a de très nombreuses pression qui s'exerce sur les médias. Et si ces pressions économiques ne sont pas suffisantes, il y a évidemment deux solutions qui peuvent paraître antinomiques avec la volonté d'indépendance des médias. La première solution, qui est une solution économique pure, je dirais, c'est la concentration, c'est-à-dire le fait de contrôler plusieurs médias pour permettre un équilibre entre ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, ou pour permettre, encore une fois, de valoriser certains segments de public auprès de certains annonceurs et de pouvoir, par là même, dériver de l'argent du média prospère vers le moins prospère à l'intérieur d'un groupe. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu iconoclaste, et je sais que chaque fois que je dis dans des lieux ou sur des écrits que la concentration est une chose qui peut être utile et même profitable aux médias et aux journalistes parce qu'elle apporte parfois, mais pas toujours, une solution d'aisance financière, on se réécrit en disant non, la concentration c'est l'horreur, et je me fais régulièrement critiquer lorsque je dis la concentration peut être quelque chose d'intéressant. La deuxième solution, c'est de nouveau l'aide de l'État. L'aide de l'État à condition évidemment qu'elle soit sur des critères, on va dire, techniques, c'est-à-dire que l'État n'intervienne pas pour aider le média qui lui est favorable et pour ne pas aider le média qui lui est défavorable. Alors, c'est un peu l'attitude des pouvoirs publics en France depuis très longtemps, depuis la Révolution française. La première aide de l'État date de la Révolution, c'est une aide qu'on pourrait qualifier d'aide postale, même si la poste n'était pas encore comme aujourd'hui, n'avait pas le même statut qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que les journaux, il s'agissait bien évidemment des journaux politiques à l'époque, que les journaux puissent être transportés à un tarif qui ne soit pas trop élevé pour qu'on ait un accès démocratique à ces journaux sans que le poids de la distribution handicape le prix de vente. Donc les aides de l'État à la presse, et il existe également des aides de l'État à la radio, notamment aux radios associatives, ont pour objet de faire en sorte que l'on permette de donner de l'argent, ce qui est assez rare, des subventions, mais plutôt d'économiser des coûts. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la poste. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le même prix que le tarif postal, on ne paye pas le même prix pour la SNCF. Donc il y a des systèmes d'aide, il existe pour la presse à peu près 19 modalités d'aide aux médias. Je n'entrerai pas, rassurez-vous, dans le détail. Donc, on peut considérer que les journalistes, lorsqu'ils souhaitent une indépendance totale vis-à-vis des pouvoirs publics, doivent et souhaitent une indépendance totale vis-à-vis des pouvoirs économiques, ne sont peut-être pas toujours, je me penche vers mon voisin, très à l'aise, parce que effectivement, il est difficile que des actionnaires n'aient pas envie de regarder ce qui se passe dans leur journal, soit parce qu'ils sont politisés, ça c'est un problème qui n'existe pas dans tous les cas, soit parce que tout simplement ils veulent que leurs capitaux soient au moins pas trop à perte. Alors évidemment, je lis ici la charte d'éthique et d'ontologie du journal Le Monde qui dit l'indépendance éditoriale des journaux du groupe Le Monde à l'égard de ses actionnaires, des annonceurs, des pouvoirs publics, politiques, économiques, idéologiques et religieux est la condition nécessaire d'une information libre et de qualité. Effectivement, on ne peut que souscrire à cette affirmation, mais la réalité est parfois différente et l'indépendance éditoriale des journalistes est parfois tributaire de ses actionnaires et parfois de leur mécontentement. Monsieur Fettorino n'est plus au journal, mais il s'avère, comme chacun l'a peut-être entendu, qu'il y a quelques jours, l'un des actionnaires s'est indigné sur Internet, mais on peut très facilement lire son message, son mail, des articles que le journal avait écrits à propos de Mitterrand, du président Mitterrand, de l'ex-président Mitterrand, et qu'il avait même émis quelques regrets sur la capitalisation qu'il avait accordée au journal. Il s'est repris quelques jours après, mais déjà, à peine moins de, enfin, au bout de quelques mois après son action, sa prise de participation, il a déjà émis quelques commentaires et quelques regrets. Donc, le souhait des journalistes, souhait qui s'est incarné souvent dans la demande d'avoir justement un actionnariat à travers les sociétés de rédacteurs, c'était le grand désir de Jean Chevel, qui était un journaliste du Monde et qui a essayé d'initier des sociétés de rédacteurs qui soient non seulement des sociétés morales, mais également des sociétés capitalistiques, c'est-à-dire qu'il y a un droit et une minorité de blocage. Ce souhait est très rarement accordé, et les journaux ont souvent un clivage important entre ceux qui possèdent le journal et ceux qui écrivent dans le journal. Et donc, je terminerai là-dessus, je pense qu'on n'est pas dans un monde idéal, et très souvent, il y a effectivement une pression, non seulement des capitalistes, comme je viens de le dire, mais aussi du marché des médias, de la part donc des gens qui achètent soit de l'espace publicitaire, sont les annonceurs, soit des gens qui payent pour consommer les médias.
Merci. La transition est effectivement tout très simple. Éric Fettorino est né en 1960, journaliste, écrivain. Journaliste, toute une carrière dans divers journaux, Les Nouvelles, la Tribune de l'Économie, Le Monde, dont il a été directeur de 1998 à 2010, dans une situation qui n'était pas facile. Et l'écrivain, toute une série de romans publiés chez Gallimard, Question à mon père, 2010, L'homme qui m'aimait tout bas, 2009, Petit éloge de la bicyclette, ça j'y suis très sensible, et notamment je vous remercie d'avoir fait publier dans Le Monde les fameuses feuilletons de votre, je ne me souviens plus de son nom, pardon,
de Guillaume Prébois.
De Guillaume Prébois, qui ont été des morceaux, des feuilletons d'anthologie, et entre amateurs de bicyclette, je crois que nous nous reconnaissions.
Merci beaucoup et bonjour à tous. J'ai entendu déjà beaucoup de choses qui font que je vais passer comme ça un peu en diagonale un certain nombre de thèmes qui ont été évoqués. Et effectivement, sur le sujet du jour, les noces de la politique, alors étrange entre la politique et la communication, c'est vrai que dans un lieu comme celui-là, on pense aux noces de Figaro, mais les drôles de noces du Monde avec la communication et la politique surtout m'ont beaucoup fait réfléchir ces dernières années, comme vous pouvez l'imaginer, dans un journal où j'ai passé 25 ans, et en particulier m'interroger sur pourquoi les politiques étaient aussi effervescents, étaient aussi réactifs lorsque le Monde écrivait des choses qui ne leur plaisaient pas. Alors, je ne vais pas parler au nom du Monde, je ne parle plus au nom du Monde, donc je parle évidemment à titre personnel aujourd'hui à la lumière de mon expérience, mais aussi de ce que j'ai appris de ce journal et de sa naissance. Donc je vais vous parler un petit peu d'Hubert Boeuf-Méry et du général de Gaulle, un peu d'histoire. En 1944, quand le Monde est né, au mois de décembre, il a pris la succession d'un journal qui s'appelait Le Temps. Et tout à l'heure, Sophie Coignard a parlé du Comité des Forges, qui était considéré comme le journal du Comité des Forges et qui faisait entendre une certaine voix de la France. Et c'est une sorte de paradoxe que ce journal qui a revendiqué et revendique encore à sa manière son indépendance soit né d'une volonté du général de Gaulle, donc d'un homme de pouvoir s'il en est, qui a demandé à l'époque à son commissaire de l'information, qui s'appelait Tedjène, de refaire Le Temps pour qu'on puisse de nouveau réentendre la voix de la France, non pas tellement en France, d'ailleurs il se moquait un peu des lecteurs de Gaulle, mais dans les ambassades étrangères, dans les pays étrangers. Il a dit, on avait les débats, on avait Le Temps, refaites Le Temps, prenez un journaliste qui a été un résistant et qui soit irréprochable, flanquez-le d'un huguenot et d'un gaulliste, et il l'a flanqué d'un gaulliste qui était Franck Brentano, et d'un huguenot qui s'appelait René Courtin, et à trois, cette troïka a créé le monde. Donc on voit bien que ce paradoxe originel d'un pouvoir qui décide de la création d'un journal pour faire entendre la voix de la France ailleurs que dans les frontières, et qui le confie à un homme qui, lui, est résolument, farouchement, j'allais dire épidermiquement, indépendant. Et lorsque Boeuf-Méry fait son premier éditorial, le 19 décembre 1944, il a dit plus tard « J'ai écrit une dizaine de lignes écœurantes de banalité ». Mais enfin, écœurantes de banalité, il écrit un nouveau journal paraît, Le Monde. Sa première ambition est d'assurer des informations claires, vraies et dans toute la mesure du possible rapides et complètes, sachant que dire la vérité, pour lui, était, je crois, le sommet de ce que devait faire un journaliste, mais un sommet qui devait atteindre chaque jour. Et Boeuf-Méry était complètement imprégné de la lecture de Peggy, le Peggy des cahiers, le Peggy de la vérité vraie, qui disait dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, et tristement la vérité triste. Alors, Boeuf-Méry, qui s'est lancé dans cette aventure du monde avec un pessimisme de tous les jours, en disant je ne sais pas si ça va continuer, parce que lui avait souhaité que De Gaulle soit un recours, mais dès que De Gaulle a été un pouvoir, il n'a eu de cesse de le contester. Il l'a appelé de ses voeux en 58, mais lorsqu'il a été, il est revenu au pouvoir pour fonder la Ve République, il a aussitôt contesté sa politique algérienne, il a aussitôt contesté la manière dont il était revenu au pouvoir, la torture en Algérie. Et je vais vous rapporter un échange qui a eu lieu en 1960 dans les locaux, enfin dans les très beaux lieux qu'est le Palais Royal, et d'ailleurs, quand Boeuf-Méry est arrivé là-bas, il a dit c'est Versailles. Donc c'est très à propos de parler de cette rencontre. Donc De Gaulle passe, salue, les femmes se penchent très bas et les hommes s'inclinent, serrent la main. Et Boeuf-Méry est un peu en retrait près d'une cheminée. Il espère peut-être que De Gaulle ne le verra pas. Et puis Léon Noël, qui est le président du Conseil constitutionnel, qui est un vieux compagnon de Boeuf-Méry, évidemment amène Boeuf-Méry au président, ou plutôt le président à Boeuf-Méry. Et alors, Boeuf-Méry hasarde un... Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé. Et Boeuf-Méry et De Gaulle le regardent et lui dit « Oui, je sais ce que vous pensez, vous savez ce que je pense, alors à quoi bon ?» Et De Gaulle repart et puis il s'arrête, il revient vers Boeuf-Méry et il lui dit « Vous êtes comme Méphisto. » Mais oui, rappelez-vous Méphisto. Quand Méphisto dit à Faust « Je suis l'esprit qui toujours nie », il lui dit en allemand, je ne vais pas vous le dire en allemand. Et Boeuf-Méry est saisi par cette phrase et lui dit « Mais mon général, je ne vous ai pas toujours dit non, je n'ai pas toujours dit non ». Et Boeuf est très froissé, évidemment, parce que c'est une sorte d'humiliation publique. Et c'est vrai que dans cette période-là où il ne se parlait pas, cette manière de De Gaulle de prononcer ces phrases devant un peu l'establishment, on dirait aujourd'hui français, est une forme d'humiliation. 2 ans plus tôt, quand il dit on ne s'est pas parlé depuis 2 ans, 2 ans plus tôt, en 58, il s'était rencontré assez longuement. Hubert Boeuf-Méry était allé visiter le général de Gaulle à l'Élysée. Et De Gaulle lui avait dit « Ah, le monde, je vois le talent, le succès, le tirage, je le lis beaucoup ». Je le lis et je m'abuse beaucoup. Vous en savez des choses, c'est très divertissant les journaux. Alors, Boeuf-Méry avait été là aussi un peu interloqué et il lui dit, mais président ou général, si un jour le monde cesse de vous amuser, il vous le suffirait de me le dire et j'en tirerai les conséquences. De Gaulle dit, je suis pour la liberté de la presse. Boeuf insiste, il dit, certes, mais vous savez qu'une lettre de vous suffirait et je pourrais partir. Et De Gaulle lui répond, cela vous honore. Il n'empêche que sans moi, Monsieur Boeuf-Méry, aujourd'hui vous seriez pendu. Et là aussi, cet échange entre le président et le directeur du Monde est quelque chose qui a construit cette relation un peu maladive, il faut le dire, entre le pouvoir et toujours ce journal qui avait été voulu par le pouvoir dès 44, c'est-à-dire qu'on a toujours eu ce sentiment que le pouvoir attendait du monde autre chose, qu'il soit une sorte de journal officiel, qu'il porte la parole, qu'il porte une parole publique, comme un service public d'une certaine manière, et qu'il soit au-dessus de tout engagement partisan, mais aussi de toute polémique inutile, de tout ce qui froissait la grandeur de la politique de la France. Alors, je dois dire que je parlerai tout à l'heure dans un deuxième temps de relations que j'ai pu avoir avec le président de la République, mais je pensais pas très heureux de comparer celle que j'avais pu modestement avoir avec celle qu'avaient pu avoir Beuve-Méry et le général de Gaulle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une constante avec les successeurs d'Hubert Beuve-Méry à la tête du Monde et avec les différents locataires de l'Élysée, c'est cette espèce de méfiance et de critique systématique et réciproque. C'est-à-dire que le septennat de Giscard d'Estaing a été très houleux avec Jacques Fauvé, qui était le directeur du Monde, l'affaire des diamants de Bokassa, les lois sécurité et liberté qui étaient portées par Alain Perfit à l'époque, qui ont valu d'abord des éditoriaux assez rudes du Monde, notamment de Philippe Boucher, et de poursuites du Monde par Perfit. Ça a été une période très très dure pour le Monde. La relation avec François Mitterrand a aussi été très complexe, puisque très vite, il y a eu l'affaire du Rainbow Warrior, que le Monde, avec Edoui Plenel, a sorti de façon très très professionnelle et qui a fait porter beaucoup de tort, puisque là aussi, le Monde a dit une vérité, même si la vérité, c'est quelque chose qu'on prend en marche et qu'on essaie d'éclairer avec des enquêtes et des mots, et c'est toujours fragile, la vérité. La vérité du jour peut être en partie seulement, démentie le lendemain, il faut la corriger, c'est sans doute d'ailleurs une des différences entre l'écrit et l'image ou la parole. On peut, avec des mots, revenir sur ce qu'on a déjà écrit. La période Jean-Marie Colombani avec Jacques Chirac était aussi complexe dans la mesure où le Monde avait été taxé à tort ou à raison de baladurisme, et donc vous pouvez imaginer l'accueil que pouvait faire Jacques Chirac aux journalistes du Monde et à son directeur. Enfin, pour la période qui m'a concerné, il y a eu des périodes de séduction, de tentatives de séduction, et puis évidemment des choses beaucoup plus difficiles, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais aborder un point qui a été soulevé tout à l'heure, ce qu'on appelle les dîners en ville, parce que les noces de la communication et du journalisme, c'est beaucoup les dîners en ville. Et j'ai trouvé une formule qu'avait eue Jean-Jacques Servan-Schreiber il y a très longtemps, quand il était encore un homme de presse, et il disait à leur propos, cette relation de caresse réciproque entre l'homme de presse et les pouvoirs est en France la plus verglacée qui soit. Et effectivement, est-ce qu'il y a connivence, est-ce qu'il y a une manière de tisser des liens qui vont au-delà du simple lien professionnel, puisque, comme le disait tout à l'heure Sophie Coignard, notre métier est un métier de distance, savoir quelle est la bonne distance, jusqu'où doit-on s'approcher de sa source, faire en sorte qu'on la fréquente, qu'on la comprenne, est indispensable. Un journaliste doit avoir des sources, il doit aller au contact, c'est indispensable. Mais jusqu'où doit-il garder ses distances? Et c'est quelque chose, moi, qui m'a frappé quand j'étais directeur du journal. Je n'ai jamais tutoyé un seul homme politique, jamais. Et je pense que déjà, une forme de connivence arrive avec le tutoiement. Et je crois que c'est des choses, ce n'est rien. On peut dire, ce sont des gens qui se connaissent depuis longtemps à force de faire des réunions ensemble, des interviews, d'avoir vécu différents grands moments politiques ensemble. Ça peut créer, bien sûr, une forme de connivence ou de complicité. Mais je crois que la distance, là, doit toujours être respectée, d'autant plus qu'elle est menacée par la familiarité. Je voudrais aborder aussi la dimension financière qui a été évoquée tout à l'heure très brillamment. Alors, je crois que il est vrai que les journaux, je parle bien sûr surtout de la presse écrite qui est le domaine que je connais le mieux, les journaux ont un double lectorat ou une double attente, l'attente de leurs lecteurs et l'attente de leurs annonceurs. Peut-être avez-vous suivi il y a quelques années le conflit qu'il y a eu entre La Repubblica, le journal italien, en quotidien italien, et Berlusconi. Ce journal italien, chaque jour, publiait à sa une 10 questions au président du Conseil, Et tant que le président n'avait pas répondu, il continuait de les publier. Ce qui fait qu'à un moment donné, Silvio Berlusconi a donné comme ordre, il n'a pas été complètement suivi, mais c'est incroyable de voir que cet ordre a pu être donné à tous les grands annonceurs de l'Italie de faire la grève de la publicité, autrement dit de ne plus fournir de campagne publicitaire à la Repubblica pour l'assécher financièrement, pour la mettre en danger financièrement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit plusieurs choses, le décor se camper de la manière suivante. Il y a une érosion très forte d'électorat pour la presse écrite, donc les ressources qui viennent du lectorat diminuent. La crise, surtout depuis la crise financière de 2008, mais un journal comme Le Monde, qui pouvait avoir 100 millions d'euros de recettes publicitaires en l'an 2000, en avait moins de la moitié 10 ans plus tard. Donc la crise financière et l'arrivée de nouveaux canaux de communication publicitaire ont fait qu'il y a eu une fragilité accrue de la presse écrite. Et cela s'est fait à un moment où une révolution technologique était en marche, qui faisait qu'il y avait une vieille industrie avec des rotatives, avec des imprimeries, et à côté une industrie toute neuve qui allait très très vite. L'étincelle numérique, c'est vraiment quelque chose, c'est une sorte de nouvelle guerre du feu pour l'information, qui n'a pas trouvé, elle, de modèle économique. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, même si on voit les tablettes se développer, un certain nombre de supports payants, le numérique est né dans la gratuité. Et on ne peut plus imaginer une information payante lorsque vous avez en face une information gratuite. C'est un peu la même parallèle qu'on pourrait faire aujourd'hui entre est-ce qu'on préfère la rumeur à l'information, est-ce qu'on préfère l'information payante à l'information gratuite. Ce sont des choses très différentes. Mais à l'arrivée, vous avez des écrans d'ordinateur, vous avez des iPhones, vous avez des supports nouveaux qui font que la structure économique de la presse a été complètement modifiée. Très vite, ça a duré 5 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de théorie de l'évolution, c'est-à-dire que seuls s'en sortiront ceux qui auront inventé le modèle qui leur permettra d'affronter l'ère nouvelle de l'information qui est sur la gratuité. Or, est-ce qu'on peut donner une valeur à quelque chose qui n'a pas de prix ? C'est évidemment la question que se posent beaucoup de médias aujourd'hui, qui sont obligés à la fois d'avoir des espaces gratuits et des espaces payants, sachant que le payant est le seul qui, par définition, permet de faire face au coût, mais que le gratuit est le seul qui permet une audience, donc d'avoir un lectorat très, très large. Alors, pour conclure provisoirement sur ces points et ne pas prendre trop de temps, je voulais vous dire, en parlant de Beuve Mairie à la période actuelle, c'est qu'aujourd'hui, pour la presse, la question de l'indépendance est une question clé parce que c'est une question de crédibilité. C'est-à-dire que lorsque un média, pour une raison ou une autre, est tenu pour ne pas être indépendant, forcément, son audience va diminuer, son crédit va diminuer et il sera en danger. Mais le paradoxe, et il a été tout à l'heure déjà pas mal souligné, c'est que pour garder leur indépendance, beaucoup de journaux sont obligés de faire appel à des actionnaires, à de nouveaux acteurs économiques, financiers, qui font que même si la rédaction ne va pas du tout changer sa perception de l'information et ne va pas abandonner ou abdiquer son professionnalisme, elle peut être du jour au lendemain une même rédaction jugée moins indépendante parce que son capital n'est plus entre ses mains. Mais si on regarde la presse anglo-saxonne, le New York Times, le Washington Post et bien d'autres, on voit bien que depuis très longtemps, il y a toujours eu une distinction entre qui détient le capital et l'information et la rédaction. Pour autant, on n'a jamais pensé que le New York Times n'était pas indépendant parce que c'était une famille et quelques actionnaires qui en détenaient le capital. Donc, l'indépendance n'est pas nécessairement une question de capital, c'est ça que je veux dire. C'est une question d'état d'esprit. Une rédaction, elle ne se mène pas comme un chien en laisse. Et l'indépendance, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de chaque journaliste. Chaque journaliste doit pouvoir se dire qu'il fait son métier et qu'il y a une sorte de muraille de Chine entre le métier tel qu'il le fait, c'est-à-dire aller chercher de l'information, la vérifier, et quand elle est vérifiée, ce que je disais tout à l'heure, de Beuve, citant Peggy, la vérité triste, dire tristement la vérité triste, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, mais la vérité. Et que ça, c'est un état d'esprit qui va bien au-delà de ce qui est la constitution d'un capital. Et je pense que ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est la manière dont des titres de presse comme Le Point, comme L'Express, comme Les Échos, comme Le Figaro, peuvent travailler, comment les rédactions travaillent et comment elles le font dans une indépendance plus ou moins forte. Et ça, je crois que c'est après l'appréciation de chacun, des lecteurs, bien sûr, et des rédactions aussi. Je sais, par exemple, peut-être ma voisine me le confirmera, que M. Pinault n'intervient pas au Point. Et que c'est, je crois, une des grandes forces que peut avoir l'équipe de Franz-Olivier Gisbert, c'est de pouvoir faire un journal indépendamment de savoir qui détient son capital. Alors, peut-être que tout le monde ne peut pas en dire autant. Et c'est là qu'il y a effectivement des limites à l'exercice. Mais je crois que comme la démocratie est un apprentissage, la vérité est un apprentissage, et l'indépendance éditoriale en est un. Il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit, je crois, c'est que chaque fois qu'un journal a montré qu'il avait perdu en indépendance, et quelquefois il est dépendant de ses propres travers, les lecteurs ou l'audience s'est détournée. Autrement dit, l'indépendance est toujours un gage de prospérité, ou en tout cas de capacité à ne pas plonger financièrement, parce que la première des sanctions, lorsque cette indépendance et le contrat de lecture est menacé, les lecteurs se détournent. Et si je reviens sur l'histoire plus ancienne du Monde, dans les années 80, après l'élection de François Mitterrand en 1981, lorsque le Monde est devenu un journal très proche du gouvernement socialiste, à tel point même qu'on disait qu'il était devenu la Gazette socialiste, eh bien, en moins de 2 ans, il a perdu 100 000 lecteurs, et il a mis beaucoup, beaucoup d'années à les récupérer. Autrement dit, il n'y avait pas eu là de recapitalisation, il n'y avait pas eu de changement capitalistique, il y avait eu la perception par des lecteurs que son journal n'était plus indépendant intellectuellement et sur le plan politique. Et je pense que c'est là qu'il y a aussi une mise en garde à faire auprès de tous ceux qui se disent l'indépendance systématiquement vient de l'arrivée de nouveaux actionnaires. L'indépendance vient aussi, et je dirais presque d'abord, de la capacité des journalistes à ne pas être prisonniers ni de leurs préjugés et ni de leurs liens qui peuvent devenir des connivences, précisément, lorsque la proximité devient trop forte entre celui qui tient la plume et celui qui l'informe. Merci.
Alors maintenant, nous terminons le tour de table. Cynthia Fleury, elle est philosophe, enseignante et chercheure en philosophie politique. Elle travaille beaucoup sur la régulation démocratique, la réforme des institutions et les comportements citoyens. Je cite juste quelques-uns de ses ouvrages. Le premier, Métaphysique de l'imagination, en 2000. Les pathologies de la démocratie, en 2005. Et puis, en 2010, La fin du courage. À vous.
Alors, je vais faire un petit peu le même exercice que mes prédécesseurs, avec effectivement répondre un petit peu à tout ce qui a été dit. Tout d'abord, juste sur la place des médias. Bien sûr, elle est fondamentalement essentielle dans la démocratie. Vous avez eu Rosan Vallon, je crois, qui a ouvert le serment du jeu de paume. Il a une définition, je trouve, très juste de ce qu'est la une définition d'ailleurs qui n'est pas forcément la sienne, qui est celle aussi posée par Montesquieu et d'autres, de dire voilà, la première modalité, on va dire, de la souveraineté du peuple, c'est une modalité négative, c'est-à-dire qu'elle va s'exprimer par le contrôle, par la sanction, par l'empêchement, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas effectivement, elle sera dans la surveillance, dans le jugement, bien évidemment souvent au moment, bien sûr, des échéances électorales, mais plus globalement sur une idée comme ça de vigie, et pas dans, bien évidemment, dans cette idée du dirigé, puisque le dirigé appartient, à l'exécutif. Et donc vous avez une souveraineté du peuple qui est asymétrique. Bon. Moi, je crois que les citoyens sont arrivés au bout de cette asymétrie-là, c'est-à-dire qu'ils veulent aujourd'hui positiver, on va dire, leur souveraineté négative et passer de l'empêchement, de la surveillance à quelque chose de, de plus, certains l'ont appelé participatif, mais fondamentalement d'un accès à la codécision et pas simplement, et d'une codécision qui n'est pas que sur les échéances électorales, donc cette volonté d'avoir une démocratie moins intermittente, hein, mais d'avoir un exercice comme ça plus continu de la démocratie. Et dans cet acte plus continu de la démocratie, les médias y jouent un rôle déterminant. Ils jouent un rôle déterminant comme à la fois un outil de traduction des politiques, c'est-à-dire effectivement de faire descendre les idées, les programmes, de les traduire, alors, et puis d'aller au-delà des éléments de langage, vous avez tout à fait raison. Là où ça pêche encore un peu, peut-être, ou en tout cas que ça peut être ressenti comme ça de la part des citoyens, c'est dans l'élément de traduction bottom-up et non pas top-down, c'est-à-dire dans cette idée d'être aussi un outil de traduction des citoyens, et pas simplement par des sondages. Parce que le sondage est une approche statisticienne, on va dire, et extrêmement plus ponctuelle, extrêmement réactive et au final peu profonde. Et on voit bien que ces sondages, même s'ils participent de notre vie politique, sont insuffisants dans le rendu qualitatif de l'opinion publique et citoyenne. Et là, il y a sans doute à retravailler, à renforcer ce pouvoir de médiation, de traduction que sont les médias. Sur la question de l'indépendance, elle est effectivement très... très très dur, car je crois que Nadine Toussaint-Desmoulins a tout à fait raison lorsqu'elle dit que la concentration n'est pas forcément un mal. C'est souvent d'abord le seul modèle économique viable aujourd'hui, donc c'est, bien évidemment c'est problématique. Aux États-Unis, vous avez les payola rules et les plugola rules qui essayent de penser justement cette délimitation par rapport au pouvoir des annonceurs pour les payola et pour les plugola rules. Vous avez tout ce qui concerne effectivement les conglomérats, d'essayer de lutter justement contre ces effets de concentration. Mais il y a surtout une manière fondamentale de lutter, non pas de lutter contre la concentration, mais c'est tout simplement à l'intérieur de créer des contre-pouvoirs et de créer des contre-pouvoirs efficaces, d'avoir effectivement des sociétés de rédacteurs, d'avoir des chartes, d'avoir aussi des déontologies sur les embauches. Quand je vois la précarisation qui est posée effectivement sur les journalistes, pas que d'ailleurs sur les journalistes, mais surtout sur toutes les professions qui ont un potentiel dissident fort. Les journalistes ont un potentiel dissident fort, ils considèrent que la dissidence est un moyen de gouvernance. Les enseignants, pareil. Et vous voyez que sur toutes ces professions intellectuelles, elles sont précarisées par justement leur mode de travail, en tout cas leur embauche, etc. Et ce qui fait que, bien évidemment, ça met en danger aussi leur indépendance, j'imagine. Et de toute façon, pour l'entendre de la part de journalistes, vous n'avez pas la même liberté de ton lorsque vous savez que vous êtes expulsable dans la seconde. Donc, on sait très bien que pouvoir défendre un certain type d'information, c'est aussi protéger des dispositifs d'information qui englobe le modèle économique jusqu'à nos écoles qui forment nos journalistes, en passant par effectivement de ce modèle économique jusqu'à la formation journalistique. Et on sait que c'est en protégeant ces dispositifs d'information qu'on protège au final une information libre, éclairée, pluraliste, indépendante, que sais-je. Et c'est tout ce dispositif aujourd'hui qui est mis en balance, en tout cas précarisé. Alors, sur la bonne distance aussi qui a été évoquée par Eric Fotorino, moi je dirais que vous avez tout à fait raison. Les nouveaux médias ont tout de même apporté c'est le cas de le dire, une nouvelle donne qui n'est pas inintéressante et qui a justement voulu taper du doigt sur cette question de la bonne distance, sans doute. C'est-à-dire des nouveaux médias qui sont moins, en tout cas ressentis comme moins consanguins. Leur problème, c'est leur durabilité, parce qu'effectivement, très souvent, sur des modèles économiques qui ne sont pas durables, qui ne sont pas viables économiquement, parce que problème de gratuité, etc., on le sait, mais qui tout de même ont montré à quel point cette question de la bonne distance avait été délaissée ces dernières années, cette question de la consanguinité, cette question de l'indépendance des médias. Et ces nouveaux médias, je crois, aujourd'hui sont véritablement intéressants dans le jeu, dans la cartographie des pouvoirs qui peut être mise en place par rapport aux politiques et aux médias. La question de la bonne distance, c'est aussi le décentrement par rapport au point de vue franco-français. Moi, je sais que j'étais toujours... je lis la presse par plaisir et obligation. Donc, par obligation, je vais avoir un panorama beaucoup plus vaste avec l'obligation d'aller lire les journaux étrangers. Et tout d'un coup, c'est quand même un autre monde qui apparaît, notamment sur le point de vue de nos leaders. Et c'est vrai que j'étais toujours extrêmement étonnée de voir que nos médias ont ce point de vue si franco-centré et qui, pour moi, participe également de la problématique de la bonne distance. Parce que, soudainement, on ne voit pas ce qui se joue sur la scène internationale, et c'est aussi, ça fait partie, terriblement partie aujourd'hui, de la vérité du politique. Donc, sur les conflits d'intérêts, bien évidemment, tout est une affaire de nuances. Je suis toujours là aussi étonnée de voir que l'on confond d'un côté les conflits d'intérêts avec les conflits de légitimité. Les conflits de légitimité, un politique ne fait que ça. Il arbitre tout le temps des conflits de légitimité. Vous êtes un maire, vous avez une usine qui veut s'implanter sur votre territoire, et puis vous allez voir débarquer, si c'est une usine qui fait des choses pas très agréables, vous allez voir débarquer une association de naturalistes qui va vous dire c'est pas possible, etc., etc. Donc là, vous avez un conflit de légitimité entre un conflit de légitimité économique, parce que ça rend votre territoire attractif, ça crée, etc., de l'impôt, que sais-je, et puis de l'autre côté, une légitimité écologique éventuellement, et vous devez arbitrer. Donc ces conflits de légitimité, ils font véritablement l'appui et le beau temps de toute activité politique et de toute activité d'enseignant, de journaliste, que sais-je. Donc les conflits de loyauté, les conflits de devoir, les conflits de légitimité, tout ça, ça fait partie de nos vies. Un conflit d'intérêts, c'est une autre histoire. Donc c'est pas que une histoire de connivence ou même d'influence, là encore. Qui va se targuer d'être hors influence, etc. C'est pas l'enjeu. C'est à un moment donné, vous récupérez, vous profitez de quelque chose. Donc, il y a là encore, c'est vrai, la question de la bonne distance, elle est extrêmement compliquée, et elle pourrait davantage être affinée. C'est vrai, alors elles le sont dans les chartes, mais peut-être de façon plus transparente par rapport aux citoyens qui peut-être n'accèdent pas à cette définition justement des rapports entre journalistes et politiques. Sur la question du journalisme d'exécution et du journalisme d'idées, moi j'ai bien aimé cette expression, parce que c'est vrai que c'est pareil en politique. On a le sentiment que soit, alors je vais le dire un tout petit peu différemment, mais vous êtes soit dans le comité de salut public, soit dans, au contraire, une espèce de connivence. Bon, ben, il y a bien évidemment un juste milieu à obtenir des deux. Alors là, j'avoue que je vais avoir vraiment un point de vue novice et citoyen sur la presse française. On va me mettre dans cette posture de celle qui lit en tant que citoyenne, et on peut effectivement, alors est-ce que c'est quelque chose qui est relatif au moment que nous vivons, qui est une personnalisation à outrance de la politique, une pipolisation, etc., tout ce qu'on sait, une pression financière très forte, et donc une pression d'audimat, entre guillemets, qui vient tout d'un coup se télescoper avec d'autres pressions, notamment pour les journaux, mais vous avez un journalisme d'exécution tout de même ressenti comme légèrement plus fort que le journalisme d'idées au sens d'exposer les idées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la vérité triste et ennuyeuse, je crois, n'attire pas. Or, c'est un des devoirs des médias, d'être effectivement dans le dire vrai, et dans ce dire vrai qui parfois est bêtement pédagogique, bêtement ennuyeux, en tout cas ressorti comme non divertissant Justement pas dans le storytelling, dans le fait de nous raconter une histoire, etc. Aujourd'hui, peut-être que cette précarisation sur les modèles financiers des médias fait que soudainement les médias se sont mis à vouloir également nous divertir. Nous, on connaît ça quand on est enseignant, avec cette obligation dans certains endroits de ne pas ennuyer nos élèves. Ce qui est terrible, parce que éventuellement tant mieux si on ne les ennuie pas, mais ça ne doit pas en tout cas être la première donnée. Donc de la même façon, les médias, on voit bien qu'ils se sont mis aussi cette pression, je pense, de ne pas ennuyer leur lecteur. Le seul souci, c'est que parfois, dans l'ennui, se trouvait quelque chose qui s'appelait la vérité, en tout cas si on en croit Peggy. Donc là, il y a également un souci avec ce pacte fondamentalement que doit reprendre les médias avec le dire vrai et non pas le divertissement ou le fait d'attraper comme ça les lecteurs pour pouvoir les passionner. Au contraire, dépassionnons fondamentalement l'exercice médiatique. Donc voilà, c'est simplement ces points-là que je voulais rappeler, dans la mesure où ce qui soutient l'exercice démocratique, c'est ce pacte avec la parole. Donc toujours, la démocratie a été le lieu d'une démagogie, d'une parole sophistique, d'une instrumentation de la parole, etc. Mais toujours, la démocratie a été aussi le lieu d'autre chose, c'est-à-dire cette alliance avec un dire vrai, avec une parole dite entre guillemets socratique, philosophique, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas cette idée que, et Foucault l'avait dit dans des meilleurs termes, qu'il y a un jeu avec la parésia. Et les deux termes sont importants, c'est-à-dire c'est pas la vérité comme un dogme, mais c'est la vérité comme une interaction entre nous. Et le fait de dire il y a une exigence entre les individus, ce ne sont pas des liens de pouvoir sans réciproque qu'il faut mettre en place entre les individus, ce sont des liens d'exigence parésiastique réciproque, c'est-à-dire d'exigence de se parler vrai, et c'est ça qui soutient en dernière instance l'exercice de notre régime. Et fondamentalement, vous voyez que par exemple avec le retour de la rumeur, comme vous avez dit justement, avec le retour de la calomnie, vous voyez bien qu'on veut essayer de confondre ces deux manières de faire, puisque la calomnie, généralement, prend le parti de la vérité, c'est-à-dire qu'elle s'avance comme étant, soi-disant, de la vérité, et bien évidemment, elle ne l'est pas. Donc, elle essaye justement de mêler ces deux états de fait, alors qu'il y a fondamentalement un pacte avec cette parole vraie, même si ça paraît un peu condescendant, peut-être un peu prétentieux, fondamentalement, c'est quelque chose de très humble et qui sait, effectivement, de très ennuyeux.
Merci. Alors, les interventions ont été un peu plus longues que prévues, donc il va falloir aller un peu vite pour la suite. Il n'y a pas de questions de la salle compte tenu des dispositions, je le regrette, mais je vais me faire un peu l'avocat du public, le bottom up. Donc je vais vous demander à chacun de réintervenir brièvement, pas plus de 5 minutes sur ce qui s'est dit, mais je vais vous lancer un certain nombre de thèmes, parce que j'ai été frustré, ou disons que je me pose des questions. Alors je vous les énumère un petit peu en vrac. D'abord, qu'est-ce que vous pensez des noces au sens propre ? Puisqu'il y a un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques qui sont mariés avec des gens ou mariés ou du dernier bien, comme on disait, avec des gens de la communication. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène ? Est-ce qu'il est strictement français ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment l'approche-t-on de manière déontologique, etc. Question de la déontologie. Alors, question de la déontologie, c'est une question que je poserai peut-être plus d'ailleurs à Olivier Mazerolles. C'est qu'est-ce que vous pensez, Olivier, par exemple, du phénomène d'embargo sur les nouvelles, et notamment quand l'embargo est à 3 mois, comme ça s'est passé avec les déjeuners d'un certain nombre de rédactions avec DSK. Il déjeune en avril pour avoir des nouvelles sous embargo pour fin juin. Est-ce que c'est de la déontologie journalistique ou est-ce que c'est de la connivence? Troisième question. Si on veut faire si on veut respecter la vérité, il faut faire des enquêtes. Faire des enquêtes, ça suppose d'avoir de l'argent. Ce qu'on a vu de plus en plus dans la presse dans les derniers temps, et pas seulement la presse d'ailleurs papier, hein, c'est que les journalistes font défaut, on licencie, il y a des plans sociaux, il y a de moins en moins de possibilités d'enquête. Le New York Times a mis 7 journalistes sur la plaignante dans l'affaire DSK pour étudier son background, son arrière-plan et d'où elle venait, qui elle était, sa personnalité, quelle était ses identités. Ils ont mis 7 journalistes. Est-ce que il faut pas de l'argent pour ça? Donc les notions de science propre, les questions de déontologie. Question très intéressante qu'a évoqué Sophie Coignard, c'est effectivement la généralisation, disons, de la relation étroite entre le politique et la communication. Et dans quelle mesure est-ce que le journaliste n'est pas lui-même plus ou moins prisonnier de la communication qui est impulsée par les hommes politiques? Et on vous fournit des éléments de langage. Moi, en tant que lecteur assez attentif de la presse, j'ai été très surpris de voir dans beaucoup de quotidiens et de magazines des éléments de langage qui étaient visiblement sur l'affaire DSK, qui avaient visiblement été fournis par Euro-RSCG. Il y a du spin aussi, le fameux spin. Dans quelle mesure est-ce que le journaliste peut échapper à ça? Un autre phénomène assez intéressant, récemment, c'est la manière absolument merveilleusement habile dont a été spiné, passez-moi l'expression, le bébé Sarko. Il a été spiné à travers la presse People, de manière à ce que ça devienne quelque chose, alors qu'en fait c'est d'abord un événement politique et c'est peut-être un bébé politique avant tout, je ne sais pas. Voilà, et puis dernière question au passage, c'est est-ce qu'il n'y a pas une nomenclatura politico-médiatique? C'est une manière de revenir sur la en tant que participant très occasionnel à des débats télévisés, je suis toujours frappé de voir à quel point justement il y a une sorte de grands politiques et de grands journalistes, et puis là je dirais que les relations sont excellentes et les jeux sont assez convenus aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Voilà les questions que, en tant que monsieur du genou, comme dirait l'autre, je me pose et que je vous pose maintenant pour refaire le tour de table. Alors on va le refaire peut-être à partir de madame dans ce sens là pour changer un peu l'ordre.
Je vous remercie. Je ne répondrai pas à des questions de journalistes, puisque ça n'est pas ma spécialité, si je puis dire. J'ai une opinion citoyenne, mais ça ne regarde pas autre que moi. Je peux répondre sur deux de vos questions. Alors, la question 3, par exemple, effectivement, les enquêtes supposent de l'argent, ça. C'est une évidence. Et effectivement, on peut se poser la question du journalisme d'investigation, qui, comme on le sait, est quelque chose de cher. Et l'exemple que vous avez donné, il y en a d'autres. Et qui fait que, effectivement, moins on a une équipe rédactionnelle importante, plus on est tributaire de sources qui ne sont pas des sources internes au journal. Alors évidemment, on a les agences de presse, l'AFP au premier rang desquelles, qui elles emploient une très grande masse de journalistes. Encore faut-il que ces journalistes aillent là où il se passe quelque chose. Donc je crois que là on a un des nœuds du problème financier, c'est que une équipe journalistique qui a du temps, qui a les moyens de se déplacer, eh bien ça demande de l'argent et c'est quelque chose d'évident. Deuxième chose à laquelle je peux répondre, c'est un petit peu la dernière question que vous évoquiez, la nomenclatura. Effectivement, il y a eu un ouvrage d'un de mes collègues il y a quelques années qui s'appelait « L'élite des journalistes ». C'est Rémy Rifel qui l'a écrit, qui s'est beaucoup intéressé aux journalistes. Il est exact que le grand public connaît et reconnaît un certain nombre de journalistes qui deviennent des vedettes, à commencer par les fameux animateurs. Sans citer de nom, il y a des animateurs télévisuels dont on sait qu'ils gagnent beaucoup d'argent et que leur notoriété est créatrice d'audience.
Et donc là, on tombe dans cette opposition entre ceux qui attirent de l'audience, que les Américains appellent, je crois, les anchormen, les gens qui sont comme une ancre et qui attachent l'audience, et qu'on paye très cher parce qu'ils rapportent, entre guillemets, de l'audience, donc de l'argent. Et ces journalistes-là sont connus, reconnus, payés, et à côté de ça, il y a l'armée des journalistes qui sont inconnus et mal payés. Et encore une fois, sans vouloir tirer la couverture aux études que nous menons une étude en ce moment sur, à partir de la commission de la carte des journalistes, donc sur les jeunes journalistes qui entrent avec une carte, ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes, et on se rend compte que la très grosse majorité d'entre eux, il y a des articles déjà sur cette étude qui ont été publiés, que la très grosse majorité d'entre eux sont embauchés, quand ils sont embauchés, à des salaires extrêmement faibles, qui sont de l'ordre de 1200 euros par mois. Donc, ils sont très loin de cette nomenclature, et ce sont les petites mains du journalisme qui font, encore une fois, que les entreprises oscillent entre tous ces journalistes méconnus. Quand vous prenez un journal télévisé, il y a parfois des centaines de journalistes derrière. L'audiovisuel public fait travailler, je crois, à peu près 3000 journalistes, si je ne me trompe pas, toute chaîne réunie de France Télévisions, et on en connaît une dizaine. Donc, il y a cette opposition qui est liée en partie à l'attractivité que peuvent exercer les grandes signatures.
Merci. Eric ?
Alors, je vais essayer de répondre dans le désordre et m'attacher d'abord à la question que vous posez sur les enquêtes et les moyens qu'il faut pour les enquêtes. Lorsque j'ai dirigé un groupe de presse, c'est-à-dire que j'avais en tête à la fois approcher l'excellence journalistique et aussi faire en compte que les comptes, en sorte que les comptes d'exploitation soient présentables, il fallait évidemment conjuguer les deux et rentrer dans ce qu'on peut appeler une pensée complexe. Et pour résoudre cette équation, il y avait pour moi un élément clé, c'était de pouvoir créer des supports, des produits éditoriaux qui étaient très présentables d'un point de vue journalistique et qui étaient aussi très présentable pour les annonceurs, ce qui faisait qu'on gagnait de l'argent sur la publicité avec cela, c'est-à-dire par exemple le mensuel M, qui était un mensuel de style de vie, qui était complètement déconnecté du quotidien et qui permettait à ce quotidien d'envoyer des reporters en Afghanistan, d'en envoyer longuement aux États-Unis, au Japon, d'avoir un réseau de correspondants, etc. Autrement dit, je crois que c'est difficile pour les journalistes de dire on fait un produit, là, vous le soulignez tout à l'heure, dire qu'un journal est une marque de presse qui se déploie, je ne dis pas qu'il se décline parce que dans décliner ça voudrait dire de façon un peu subliminale qu'il y a du déclin. Mais en tout cas, je crois qu'il faut faire en sorte de constituer, de produire un certain nombre de choses qui relèvent effectivement du journalisme avec une compatibilité avec des espaces publicitaires, c'est le cas d'un certain nombre de suppléments style, auto, vin, etc., qui sont utiles pour les annonceurs et qui ne déplaisent pas, je dis bien qui ne déplaisent pas aux lecteurs, qui ne vous les renvoient pas à la figure, mais faire comprendre que l'existence de ces supports-là permet d'avoir un journal probablement plus maigre, mais plus dense, et avec des reportages, des enquêtes au long, qui peuvent prendre quelquefois un mois, deux mois, trois mois, avec non pas une ou deux signatures, mais six, sept signatures. Ça, c'est un premier point. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de questions sur le sujet des enquêtes. Pour un journal qui est normalement constitué, alors un hebdomadaire peut avoir une centaine de journalistes, 80, 100, quelquefois un petit peu moins, un quotidien 200, 250, 300, ça dépend des périodes, il est évident que vous avez toujours les moyens de mener des enquêtes. Mais on ne trouve que ce qu'on cherche. Autrement dit, je crois que l'impératif pour les rédactions aujourd'hui, pour les journaux, c'est d'être capable d'établir des hiérarchies suffisamment fortes, suffisamment parlantes, explicites, pour qu'ils se dire aux lecteurs, voilà, sur tel sujet, nous avons décidé de déployer des moyens forts, autrement dit d'avoir trouvé X journalistes pour les creuser. Et je pense que ce qui nuit aux journaux aujourd'hui, c'est probablement la démultiplication de rubriques, la démultiplication qui va non seulement des noblesses, c'est-à-dire l'économie, l'international, la politique, la culture, à des choses qui sont moins importantes, mais qui occupent de l'espace, qui occupent des journalistes, qui font que, à être tellement généraliste, on en vient à perdre un petit peu le cœur, la colonne vertébrale de ce que doit être un grand journal d'information. Et je pense qu'un grand journal d'information, j'allais dire presque, quel que soit le nombre de journalistes qui sont dans sa rédaction, il doit avoir les moyens de dégager les moyens de faire ces grandes enquêtes. Alors, sur ce qui concerne les noces au sens propre, et j'allais dire, je vais rattacher ça aussi à la nomenclature politico-médiatique dont ma voisine est une experte. Je vais rappeler une phrase de Beuve-Méry aussi, qui posait la question « Où sont vos frontières ?» qui à chaque journaliste disait « Mais où sont vos frontières ?» Je pense que c'est à chacun de déterminer ses frontières et faire en sorte qu'effectivement, quelle que soit sa vie privée, puisqu'il y a vie privée et privée, autrement il n'y aurait pas de mots pour dire qu'elle est privée, ou alors on confond tout, on dit que la vie privée c'est la vie publique dès lors qu'on est un personnage public. C'est une question. Je pense que c'est les frontières de chacun. Et là, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose même que vous inscrirez dans un très beau code de déontologie. C'est une pratique au quotidien, ce sont des actes. Sur la généralisation du lien entre politique et communication, je pense que le grand combat du journalisme du XXe siècle, mais encore plus du XXIe siècle, comme dégager le bon grain de livret, c'est de dégager l'information de la communication. Je crois que c'est effectivement, il n'y a pas d'autre tâche pour un journaliste aujourd'hui que de décortiquer ce qui relève d'une forme d'intox, ou même quand elle est très gentiment présentée, de ce qui est effectivement cette insaisissable et pourtant indispensable vérité à connaître quand on est dans une démocratie. Alors, sur ce point-là, je voudrais dire une chose. Il est évident que tous les pouvoirs, que ce soit les pouvoirs politiques, économiques, culturels, tous les pouvoirs, tous ceux qui ont une autorité, un pouvoir, sont tentés d'en user pour que la communication faite autour d'eux soit la meilleure et que leur discours, on peut dire qu'une politique gouvernementale où on annonce des choses, c'est de la communication. Parce que qu'est-ce qu'on a vu de réalisation sur cette politique, on ne le sait pas encore. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui avec l'explosion des nouveaux médias, et Cynthia Fleury l'a un peu dit tout à l'heure de façon assez pertinente, c'est que on est d'une certaine manière dans ce qu'on appelle une société post-démocratique. Et le post-démocratique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on est sorti d'une situation dans laquelle il y avait une autorité qui délivrait un message et puis des récepteurs qui le gobaient. Et cette autorité, c'était l'université ou c'était les journalistes, la presse, les médias, pour un public. Et on est maintenant donc un qui parle à tous. On est aujourd'hui dans un système que la technologie permet où tous parlent à tous. Et donc chacun, tout un chacun, ici dans cette salle, peut être potentiellement un média qui peut délivrer de l'information, délivrer du commentaire, faire des analyses, etc. On le voit avec le blogging, avec toutes ces choses-là. Autrement dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'une certaine manière plus de chances de voir des discours très huilés en termes de communication être décortiqués, disséqués et voir quelles sont leurs limites et même leurs mensonges qu'à une époque où effectivement tenir quelques médias permettait de tenir toute la communication. Aujourd'hui, il y a une démultiplication, quelque chose qui échappe, et ce qui échappe est quelquefois très perturbant pour les médias classiques, traditionnels, et en même temps, c'est probablement aussi avec les limites, parce qu'on sait très bien que le règne de la rumeur est aussi sur Internet, il y a le meilleur et la pire des choses, mais une capacité à faire en sorte que le spin, comme on l'a appelé, c'était Tony Blair avec ses spin doctors, qui a inauguré ça, mais enfin, on peut dire que ça existe depuis Aristote et Platon, qui ont fait que on a des discours qui veulent vous vendre comme étant blanc quelque chose qui est noir. Combien de fois on a vu au lendemain d'une défaite électorale, notamment de régional, municipal, etc., les éléments de langage que l'équipe de Sarkozy donnait pour montrer que, en fait, il n'avait pas perdu, pour ne jamais appeler défaite une défaite. Ça, c'est quelque chose. C'est d'une certaine manière, c'est très fort parce qu'il y en a qui arrivent à le croire. Mais il n'empêche que il est très sain qu'on puisse décortiquer ça de façon impitoyable. Voilà.
Merci. Sophie Coignard. Merci
beaucoup. Alors moi, je retiens la phrase d'Éric Fotorido, je trouve que c'est une devise journalistique qui me va bien, c'est « on ne cherche que ce qu'on trouve ». Je trouve ça très très bien. Et effectivement, c'est une manière de répondre à la question sur l'enquête, les moyens et l'argent. Je pense qu'effectivement, il y a aussi moi, je n'ai jamais eu la responsabilité de des comptes d'un journal, donc j'en parle d'une manière moins responsable, d'une certaine manière. Mais en même temps, ce que j'ai vu, c'est que dans l'allocation des moyens, il y a des choix journalistiques à faire. Effectivement, on ne peut pas tout faire. Et je vois par exemple au Point, il y a quand même beaucoup, on a une rédaction très petite, on n'a jamais été une grosse rédaction, et je pense que ça ne nous a jamais empêché de pouvoir mener des enquêtes. Donc effectivement, c'est une question de choix, c'est une question de direction éditoriale, véritablement. Et l'enquête peut s'appliquer, pour répondre à la question sur la communication, est-ce que le journalisme est prisonnier de la communication? Moi, je pense que, en même temps, la communication doit devenir un levier d'enquête. C'est-à-dire que on peut enquêter sur les sujets de spin. On peut faire des papiers dessus. On en fait, d'ailleurs. Et je pense que ce décryptage-là, ce travail d'enquête et de décryptage, est une manière de répondre à, effectivement, cet enjeu qui est l'enjeu du pouvoir et de l'emprise de la communication sur le réel et sur la restitution du réel. À cet égard, on voit bien d'ailleurs les limites de cette communication à outrance. Pour revenir à l'affaire DSK et pour rebondir sur ce que disait Yves Michaud, l'exercice a montré ses limites quand effectivement tout... Les membres du courant DSK ont défilé dans les médias en répétant la même chose, cela ne lui ressemble pas. C'est vrai qu'à la 15e fois, on doutait un peu de la sincérité des locuteurs de cette jolie petite phrase concoctée. Bébé Sarko, alors là, on est dans le spin absolu, effectivement, puisque le gros problème, lien avec l'affaire DSK, vous vous souvenez de ce qui a été dit par le président lui-même, décence et retenue. Hein, il est revenu là-dessus, donc il n'était pas question d'être triomphal là-dessus. Et on voit bien qu'il y a une instrumentalisation qui va jusqu'au choix du média et de la presse people. C'est-à-dire que faire fuiter ça par la presse people, c'est faire du faux paparazzi. C'est-à-dire, c'est dire on ne voulait pas le dire, mais il y a quelqu'un qui l'a dit quand même. Alors, effectivement, ça dégage la responsabilité de l'émetteur de l'info, c'est-à-dire l'Élysée, pour aller vite, qui, du coup, passe pour une victime, c'est-à-dire qu'il a été piégé par cette vilaine presse people qu'a trouvé cette information glanée dans les poubelles. Donc, effectivement, le choix du média fait partie aussi du travail des spin doctors au quotidien et de manière, à mon avis, de plus en plus grande. Alors, effectivement, j'en arrive à mon péché mignon, la nomenclatura politico-médiatique. Oui, bien sûr, je crois que les noces, au sens propre, comme vous dites, sont une sorte d'allégorie de la connivence, effectivement, et que ces noces n'ont lieu qu'à l'intérieur de cette nomenclatura politico-médiatique. Alors, est-ce qu'elle existe plus hier, aujourd'hui qu'hier, pardonnez-moi, est-ce qu'elle existe plus aujourd'hui qu'hier? Je pense qu'elle est plus visible aujourd'hui qu'hier. Je ne suis pas sûre qu'elle existe davantage. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie déconnexion de ce point de vue entre l'ensemble des journalistes, et puis effectivement une élite avec des guillemets partout, une élite qui se fréquente, qui se reçoit, qui est dans la mouvance des dîners en ville. Et là, effectivement, je crois qu'on est dans un exercice où chacun des membres de cette nomenclatura, à laquelle je n'appartiens pas car je ne dîne pas en ville, cette nomenclatura, je crois, effectivement, est dans une position difficile. Je connais, et je ne citerai pas de nom, je ne vais pas faire de palmarès, mais il y a absolument de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à tenir les distances, ou du moins à jouer de la non-distance de manière beaucoup plus habile que d'autres. Mais effectivement, il y a un de mes confrères qui me disait un jour sur la connivence, il me disait oui, mais tu as raison, d'ailleurs, la connivence, ça commence quand on fait la bise à l'attaché de presse. Et bon, c'est un peu exagéré, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant, effectivement, pour réfléchir à tout ça, à du moins cette connivence. Et je pense qu'effectivement, il y a un sentiment d'appartenance au sein de cette nomenclatura politico-médiatique qui peut poser problème si tout cela fait qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas, parce que ça n'est pas convenable. Si, quelque part, il y a une espèce de censure molle qui naît de cette connivence. Je pense que, de ce point de vue, depuis une vingtaine d'une situation de mal armée de ce qui se passe. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je crois que oui. Je voulais juste signaler, faire un petit peu de patriotisme d'entreprise à propos de la question, effectivement, du fait d'être la propriété d'un capitaliste. Alors, effectivement, au point, l'histoire que nous racontent les grands anciens, c'est que quand le point a été fondé en 72, donc c'était Hachette qui a aidé les fondateurs du point, qui étaient majoritairement des journalistes, qui venaient majoritairement de l'Express et qui avaient décidé de quitter l'Express parce qu'ils ne souhaitaient pas que leur hebdomadaire devienne un instrument de conquête politique pour Jean-Jacques Savanchereba, pardonnez-moi. Et donc, en 1981, Lagardère achète, si j'ose dire, et donc le point se retrouve de facto la propriété du groupe de Jean-Luc Lagardère. Et là, Claude Imbert, Jacques Duquesne et je crois le responsable de la publicité ont demandé à Jean-Luc Lagardère de dîner avec eux. Donc Jean-Luc Lagardère les a gentiment invités à dîner à son domicile. Et dans l'ascenseur, en gros, il disait, bon, comment lui dire? Et puis finalement, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Claude Imbert ou Jacques Duquesne qui a dit à Jean-Luc Lagardère très vite, écoutez, on vous trouve formidable, on vous aime beaucoup, vous êtes un capitaine d'industrie extraordinaire, mais on voulait vous dire qu'on ne va pas pouvoir être vous n'allez pas pouvoir être propriétaire du point, ça ne va vraiment pas être possible. Alors Lagardère était un peu étonné par cette démarche, et en gros, ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas être la propriété d'un capitaliste qui avait des relations très fortes avec l'État, qui dépendait de l'État pour sa vie. Quand on vend des armes, en gros, on est assez dépendant du bon vouloir des commandes d'État. Et donc, c'est comme ça, je me hâte, mais c'est comme ça que les fondateurs du Point ont dit à Jean-Luc Lagardère, il n'y a aucun problème, on va trouver un autre propriétaire, tranquillisez-vous, on va vous le présenter, ça se passera très gentiment. Et c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'ensuite le Point a été la propriété de Nicolas Sédoux. Mais je voulais dire que, effectivement, l'indépendance d'un journal, c'est son équipe rédactionnelle, là je surrenchéris sur ce que disait Eric Fotorino, c'est son indépendance financière, c'est le fait de gagner de l'argent. Je crois que c'est très important. Quand on n'a pas à tendre la sébille auprès du capitaliste qui vous possède, eh bien, ça change complètement le paysage. Et puis après, effectivement, je crois qu'il y a propriétaire et propriétaire, et je crois que plus on est loin, pour en revenir au thème des noces du politique et du médiatique, je crois que plus on est loin quand même de l'emprise de l'État, fût-ce de manière indirecte, par les commandes d'État, etc., auxquelles peut être soumis votre propriétaire, et mieux vous vous portez en tant que média indépendant.
Cynthia Fleury, dans ce menu, qu'est-ce que vous choisissez?
Non, moi je vais juste revenir sur la question effectivement de la nomenclatura, les noces, etc. Mais de façon positive, on va dire, je vais parler. Moi, je ne crois pas, au bonheur des nouveaux médias, mais je trouve qu'ils remettent quand même pas mal de débats dans justement ce jeu des pouvoirs et ces synergies qui étaient déjà en place. D'abord parce que je vois bon nombre de journalistes, entre guillemets, institutionnels, qui se saisissent également de ces outils pour parler différemment. Et on a eu sur l'affaire DSK un exemple tout à fait fameux de ce type de manière de faire, c'est-à-dire de réserver quelque chose, qui pose d'ailleurs des problèmes, j'imagine, pour savoir qu'est-ce qu'on réserve à l'un, qu'est-ce qu'on réserve à l'autre, mais de voir qu'il y avait plusieurs types de vitesses, hein, plusieurs types aussi de contenu. Je pense à Jean Quatremer, par exemple, mais c'est pas. Et il l'a fait au départ tout simplement parce que les contenus européens n'intéressent pas énormément, les journaux, les quotidiens français. Et donc, sur son blog, il déverse tout ce qu'il ne peut pas déverser par rapport au contenu européen. Mais aussi, c'est devenu de facto, comme c'était un lieu de contenu très très fort au niveau européen, c'est devenu un lieu d'information tout aussi important, et résultat, il peut dire librement des choses, peut-être plus facilement qu'ailleurs. Donc là aussi, les journalistes institutionnels ont su utiliser peut-être ces nouvelles façons de donner l'information. Alors certains pensent que ça va fragmenter, hein, on a toujours cette idée que justement ça viendrait fragmenter l'espace public. Moi je ne le crois pas, je crois au contraire que ça permet tout de même de le pluraliser, ça le sophistique d'une certaine manière, et surtout, il y a un effet de déconstruction très très fort, il y a un effet de démystification très très fort sur justement les contenus communicationnels et les éléments de langage. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que ça redonne la balle aux journalistes qui ont des modèles économiques plus importants, plus viables que justement les nouveaux médias, pour aller vers l'information. Parce que autant, justement, quand vous dites les enquêtes sur le spin, etc., l'air de rien, dans les nouveaux médias, en tout cas sur le net, vous avez énormément cela. Et de façon très judicieuse, pas du tout. Donc, en revanche, là où ça peine sur les contenus informatifs purs qui sont là, qui demandent en fait des dispositifs beaucoup plus conséquents, de l'argent, etc., et qui peuvent être justement de nouveau repris en main par les médias plus traditionnels, et qui, je crois, doivent affronter effectivement cette question du choix et cette question d'une sélection par rapport à leur appétence comme ça généraliste. Alors, juste un mot pour rire sur les noces. Les noces, je crois qu'elles existent davantage aujourd'hui, d'abord parce que les journalistes dans une démocratie ont une place beaucoup plus conséquente, et on va dire que les politiques et les journalistes ont appris à s'aimer parce que c'était d'une certaine manière nécessaire. Mais voilà, c'est la différence entre les noces. Voilà, si c'est un mariage d'amour, fondamentalement ça aura le dessin des mariages d'amour, donc ça durera ce que ça durera, donc c'est pas très grave, c'est plutôt une chose. Si c'est un mariage de raison, en revanche, c'est plus compliqué, parce qu'un mariage de raison a pour fondamentalement pour objet le renforcement des familles, on va dire. Et donc, à ce moment-là, le renforcement des familles, et donc des pouvoirs, et donc des patrimoines intellectuels et financiers, et donc cette confiscation-là est d'une certaine manière plus ennuyeuse.
Voilà. Olivier Mazerolle, vous aurez le mot de la fin.
Oui. Sur les noces, évidemment, à un moment où on voit une montée du féminisme après le traitement de ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn, je dirais que c'est la preuve que la séduction est réciproque et que finalement les femmes savent très bien séduire tout autant que les hommes. D'ailleurs, j'ai eu en tant que responsable de la rédaction de France 2 à connaître de cette situation, avec une journaliste qui présentait le journal de 20h le week-end et qui était au début de sa liaison avec un homme politique connu. Elle a eu l'honnêteté d'ailleurs de venir, enfin l'honnêteté, elle a eu la délicatesse plus exactement de venir me voir pour m'en parler, me dire voilà, je fréquente tel homme politique, on en a parlé, je lui ai dit que je lui souhaitais que cela soit durable puisqu'elle avait l'air d'y tenir. Que dans l'immédiat il était compliqué de prendre une décision dans la mesure où il n'y avait pas de certitude que cela dure très longtemps malgré ses souhaits, et que donc nous convenions qu'il ne devait pas y avoir le moindre reproche à lui adresser dans le traitement d'une information qui pouvait être relative à cet homme-là ou à la famille politique qui était la sienne dans les mois qui suivaient. On a vécu sur cet accommodement jusqu'au moment où la chose est devenue durable. À l'époque, ce n'était plus moi d'ailleurs qui dirigeais la rédaction de France 2, mais elle a décidé d'elle-même de quitter le journal. Voilà, la présentation du journal. Donc je crois que ça peut se faire, et qu'après tout, c'est à... c'est comme... Pour les politiques, on a parlé conflit d'intérêts autour d'Éric Woerth et de son épouse. Je dirais que ça, c'est une question qui non seulement concerne la personne, mais doit être traitée, je dirais, à l'intérieur du couple tout d'abord. Savoir lequel des deux, lorsqu'il y a un conflit potentiel d'intérêts, doit s'effacer. dans sa profession, et puis ensuite il appartient effectivement au responsable de l'entreprise concernée à prendre la décision s'il estime qu'il doit en prendre une. En ce qui concerne les enquêtes, c'est vrai que c'est sans doute le plus grave problème auquel la presse est actuellement confrontée, parce qu'en effet les enquêtes ça coûte cher. Alors j'entends bien ce que dit Sophie Coignard, que on peut faire des enquêtes au point notamment, mais il y a une grosse différence entre un hebdo et puis des quotidiens et je dirais aussi des chaînes de télé et en particulier les chaînes Tout Info qui doivent en permanence fournir de l'information et qui donc ont un besoin d'argent pour fonctionner considérable. Et effectivement, nous nous heurtons à cette difficulté et c'est un manque très important parce que, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure pourrait laisser croire, je ne suis pas du tout hostile aux enquêtes, bien au contraire. Il n'y a pas pour moi un journaliste propre ou un journaliste sale, simplement je ne suis pas sûr que les enquêtes à l'heure actuelle soient toujours dirigées partout où elle devrait l'être. Le débat d'idées ne peut pas être déconnecté de la réalité de la situation, c'est une évidence, mais il me semble qu'en ce moment, on ne manque pas d'enquêtes qui soulèvent des aspects négatifs de l'existence, de la pauvre existence qui est la nôtre, et en revanche, les enquêtes sur les débats d'idées sont beaucoup moins nombreuses. J'aimerais un rééquilibrage. Et il est évident que les débats d'idées, c'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui se nourrit sur la réalité d'une situation. Par exemple, la mondialisation, eh bien, est-ce qu'il y a une destruction d'emplois ou pas? Comment cela est-il vécu? Je vois bien l'impuissance des politiques à répondre à cette question fondamentale par rapport à cette émergence et à cette vie qui est la nôtre maintenant. On voit que c'est quelque chose qui est crucial dans le débat politique et qui peut être illustré de multiples façons par les enquêtes. En ce qui concerne la communication, ben oui, mais j'ai peur qu'on enfonce des portes ouvertes, honnêtement, parce que bien sûr qu'il y a des communicants. Bon, ben le bébé Sarkozy, alors est-ce qu'il fallait qu'il ne fasse pas d'enfants? J'en sais rien, moi c'est leur problème, franchement, je dois vous dire, mais je n'en ai rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir un enfant, ils ont un enfant. Et bon, voilà. Alors, après, on peut leur reprocher de ne pas en avoir parlé. Mais, alors, s'il en parle, on va dire c'est une mise en scène. D'autant plus qu'il va naître, je crois, en novembre ou pas très loin de Noël. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est une mise en scène. S'il n'en parle pas, on dit, ben alors c'est une mise en scène aussi parce que justement il sait bien comment s'y prendre. Oui, bien sûr, sans doute, mais franchement, ça avait été lancé comme ça quelques jours auparavant ou quelques semaines, je ne me souviens plus. Bon, ça fait flop, comme dirait l'autre, ça fait pchit. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout, ça n'était relié à aucune consistance. Le seul reproche que j'adresserais à ma profession, et à moi aussi, parce que malheureusement j'en ai un peu parlé, c'est qu'on en ait parlé. On n'avait qu'à dire, ça n'a strictement aucun intérêt, ça ne repose sur rien. Voilà, concernant Nicolas Sarkozy, donc n'en parlons pas, et puis passons à autre chose. L'autre jour, Martine Aubry était sur TF1, n'a strictement rien annoncé. Il a fallu quand même faire des tas de papiers pour dire que certes elle n'avait pas annoncé mais qu'elle avait quand même donné un indice supplémentaire sur le fait que vraisemblablement elle allait se... Bon, franchement, ça vaut une brève. Mais ça, si on tombe dans ce panneau, on est fautif. Et je pense d'ailleurs qu'on lasse le lecteur et les téléspectateurs et les auditeurs. La nomenclatura, oui, bon. Mais enfin, j'observe que les noces se font pas entre des gens qui se rencontrent forcément dans les dîners en ville. D'ailleurs, je pense que les gens qui se rencontrent dans les dîners en ville, ça, en général, ça ne termine pas par des noces, mais par une situation qui est décrite abondamment chez Feydeau et d'autres, mais pas par des noces. Voilà. Oui, les dîners en ville, vous savez, les rumeurs, oui, pourquoi je suis très hostile aux rumeurs, je vais vous dire juste une chose. J'ai dirigé la rédaction de RTL pendant 15 ans. Bon, c'était le hasard, comme ça, Philippe Labro m'a dit, ben, voilà, vous allez diriger la rédaction, bon, très bien, j'étais là, moi, j'étais parti pour être correspondant de RTL à Washington. Donc, vous voyez, bon, et puis là-dessus... Parce que à RTL, j'ai connu Michèle Cotta, qui elle-même est devenue directrice générale de France 2. Elle me dit, ben, j'aurais bien que tu viennes diriger l'info de France 2. Bon, très bien, pour tout, ça m'intéressait. C'était un moment de ma vie où j'avais envie de changer un peu d'horizon. Très bien. Eh bien, la rumeur. Et il a fallu, et Sophie Cognard va cette fois pour pouvoir me servir de témoin de moralité, puisque c'est une spécialiste de l'obédience en question. Il y a une consoeur qui a interrogé des tas de confrères pour leur dire, mais pour qu'il soit nommé à cet endroit-là et pour qu'il soit là, il est sûrement franc-maçon. Parce que comme il n'a pas de réseau, comme on ne le voit pas dans les dîners en ville, donc il est forcément franc-maçon. Alors Sophie Cognard, qui a enquêté sur la franc-maçonnerie, pourra peut-être dire que je ne suis pas franc-maçon. Ce qui d'ailleurs n'a strictement aucun intérêt, parce que ce n'est pas une honte d'être franc-maçon. Mais vous voyez, c'est les fantasmes... Moripile. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on est comme ça dans des... Non, c'est à la fois vrai et faux, et on prête beaucoup aux riches. Voilà.
Bien, je crois qu'il est tard et nous avons fait un bon tour d'horizon. Nous avons, je pense, participé quand même à la vitalité du débat des idées. Hein. Donc, nous sortons un petit peu, justement, du fait divers. Et je vous remercie pour avoir eu toute l'attention que vous avez eue pendant 2 jours et demi. Et je remercie les participants à cet échange qui, pour ma part, m'a beaucoup plu. Merci.